cet espace vide pour être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services? Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. Radiotalbot@gmail.com. Radio Talbot est rendu possible grâce à la participation du gala Humour aveugle 27. Une soirée de rire garantie au Théâtre Saint-Denis 1 le 14 mai à compter de 20h. Billets en vente chez Ticket Pro. Plus de détails, humouraveugle.ca. Une soirée au profit de la Fondation des aveugles du Québec. Radio Talbot est une présentation des Brasseurs illimités et de la bière Simple Malte. Mugodio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. Mugodio.com. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.
Salut tout le monde, ici Denis Talbot. Vous avez manqué une chorégraphie incroyable, mesdames, messieurs, de la part de nos collaborateurs de ce soir. J'ai nommé ces deux messieurs, mesdames, messieurs, Yann Richards et Benoît Mercier. Salutations à la caméra ici derrière.
Regarde ça.
Comment vous allez les boys? Monsieur Mercier, content de vous voir. Monsieur Richards également. C'est vraiment beau, vos cheveux, j'adore. C'est beau, c'est franchement, c'est un beau travail. Félicitations.
Une belle petite permanente, Richards.
C'est cool, hein? 100% naturel. Il n'y a pas de Grace and Scarf. Pas Grace and Scarf, ça, c'est des lunettes.
Gracian Formula.
Gracian Formula, ouais.
C'est un petit peu luisant pour être naturel.
Ouais, mais d'habitude, je mets de la pâte un peu. Pâte. Je vais mettre un peu de gel, mais finalement. Il y a peut-être un peu trop, hein, c'est ça.
Cette portion d'émission est une présentation des studios de coiffure Matco, disponible dans un... Non. Comment ça va, pas ça?
Ça va super bien, Denis, je suis content d'être revenu.
Ben ouais, t'étais où tout ce temps-là?
La folie familiale, plein de choses, ouais. Il est arrivé des bonheurs, des malheurs dans la famille, ça fait que là, j'ai eu 3 semaines assez...
Intense,
puis là, mais finalement, ça s'est replacé, c'est que je suis de retour.
Je suis content que ça soit replacé, c'est pas évident la vie des fois, n'est-ce pas, Monsieur Mercier?
Oui, mais moi j'ai tout mon temps là, ce temps-ci.
D'ailleurs, je tiens à vous dire que si vous cherchez un jeune homme qui travaille fort, aimant la vie, un gars qui travaille, se lève le matin avec le goût de travailler, appelez-moi. Non.
<Tout humain. rire>
Sinon, il y a Benoît Mercier qui est disponible également. Non, sérieusement, gestionnaire de communauté.
Gestionnaire de communauté, mais là, j'ai un petit contrat qui va probablement être confirmé prochainement. Je ne vais pas trop en parler plus, là, mais les prochains mois vont être un petit peu rock'n'roll. Vous allez me manquer pendant au moins 2 mois.
Ouais.
Mais écoute, je vais m'arranger, là, je vais survivre. Ça, c'est certain.
Non, c'est sûr, on survit tous, mon cher ami. Et je sais de quoi je parle. Mm-hmm. Pas toujours facile, mais on va l'avoir. Merci beaucoup à notre ami Cerber24 qui vient de faire une contribution volontaire de 30$. C'est très apprécié. Et tous les autres que je vois, je pense que c'est ceux d'hier, par exemple. J'ai oublié de les enlever, mais quand même. Merci beaucoup de contribuer au succès de votre podcast. C'est très apprécié. Sinon, comment ça s'est passé du côté de Québec? Tu es allé faire un tour là-bas récemment? Là?
Ben oui, il y a deux semaines, j'allais faire un petit tour chez les studios Frima, qui est un développeur de jeux là-bas.
On les connaît
bien.
On les salue d'ailleurs.
Oui, on a reçu une couple de fois, je pense, à M. Ned, des développeurs de là-bas. Et c'est super bien. On a vraiment une bonne audience à Québec. On a des fans de Radio Talbot, on a des fans de.
T'as dit M. Ned.
Mais je confonds tout le temps les deux. C'est vraiment spécial. Mais oui, mais non, c'est vraiment cool. Très, très, très cool. Je trouvais que la réponse était chaleureuse. Puis c'est le fun de voir que tu vas partout au Québec puis tu finis par rencontrer des gens que tu touches à travers les internets. C'était surprenant, mais nourrissant en même temps.
Non, c'est le fun. Partout où on va... C'est rare que c'est. Habituellement, on me reconnaît, moi, pour la télé. Là, hey, Radio Talbot!
C'est encore plus fun parce que c'est un projet qui t'appartient. Ouais. Fait que c'est encore plus intéressant.
Moi, je trouve ça bien le fun. Ouais. Parlant de Radio Talbot, vous savez qu'on vous gâte. On va faire un tirage ce soir grâce à Nicholas. Nicholas qui a donné hier en fin de show, il a joué au Père Noël. Il arrive de nulle part, il donne 5 jeux à la fin du show.
Ben
je veux fermer le show. Non, je te donne des cadeaux! Il fout le bordel dans le show. Merci, Nicholas, c'est apprécié.
Hey, on se crée-tu un faux compte Twitch, toi, puis
Non, t'as pas le droit, C'est les gens, tu participes au show, tu le fais, tu peux pas gagner, voyons là.
Non.
Non.
On s'ouvre un casier postal, il y a personne qui va savoir que c'est nous autres.
N'ayez crainte, ça n'arrivera pas. Mais non, mais là, il va faire le tirage parmi tous ceux et celles qui sont inscrits. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, vous avez le temps de le faire. C'est à la fin de l'émission sur le Twitter de Radio Talbot, le Twitter de Nicklas. Les adresses vont apparaître dans le Twitch, si ça vous tente.
Pourquoi nous autres, on ne le voit pas à TV, les adresses?
Parce que c'est de la censure.
Une protection.
Tu sais, il nous contrôle.
C'est
hein,
ça, c'est ça. Il filtre l'information. D'après moi, quand on fait nos chroniques, il y a des affaires qui apparaissent en bas. Là.
C'est sûr qu'il y a des affaires qui apparaissent. Il y a une nouvelle patente qu'on a mise aussi. Je vais vous montrer ça deux secondes. Vous ne le verrez pas, mais regardez vos moniteurs.
Oui.
OK, si les gens veulent nous appeler maintenant, regarde, si j'ai fait ça comme ça, puis youp, t'as le numéro de téléphone qui apparaît. Regarde ça,
ben,
c'est cool.
Non, c'est bien le fun, ça.
C'est le fun. Cool. C'est de la magie, ça. Je pèse là-dessus, puis ça disparaît.
Comme
Excel.
Comme
Excel. Comme Excel, oui, exactement. Donc, les gens vont pouvoir nous appeler, pas de suite, tantôt. Puis, c'est ça, on va faire tirer ces clés-là à la fin de l'émission. Parlant de tirage, nos commanditaires, un de nos commanditaires, c'est, vous savez sûrement, c'est Humour Aveugle qui fait son spectacle. On l'annonce en début d'émission, c'est le 14 mai prochain. La semaine prochaine, j'aurai deux paires de billets par émission donnée et la semaine d'ensuite aussi. Donc, 12 paires à donner. Et d'ailleurs, les boys, ça vous tente de voir le show. Danny vous invite aussi à aller
pour
voir.
Vrai? Ouais,
le 14 mai prochain, on va s'en parler. Puis on a des bons billets pour tout le monde grâce à Danny. Donc, merci beaucoup, Danny. La semaine prochaine, soyez avec nous pour gagner donc ces magnifiques billets. Doucex s'en vient, mon beau Yann, on sucre.
Yeah, hein? J'ai même pas eu le temps de voir la bande-annonce aujourd'hui parce que je travaillais.
T'es-tu sérieux?
Ouais.
Ben, on va régler ça tout de suite parce que moi, là, imagine-toi donc que je l'ai ici, on la regarde.
Parle-moi donc de ça.
Un petit bout, par exemple.
T'es sérieux? Tu travaillais?
Ouais, ouais.
Oui.
Yann, il travaille. Comment ça, il travaille? C'est une job, ça, que t'as?
Ben, oui.
Oh, t'es bon en passant dans ta job.
Écoute. The augmented era began with such promise. Until the incidents turned the world upside down. 50 million dead. Hundreds of thousands more maimed and injured. All because a few rich opportunists plotted in secret to control us. Today, hatred of Augs has morphed into a full-blown mechanical apartheid, with violent clashes fueling unrest.
The augmented are suffering a genocide. It begins with taking away our rights, treating us as less than human, and then exterminating us.
Something big is brewing, and I need to cut it off at the source. How can these people always be one step ahead?
They've got unlimited power and money and absolutely no conscience at all. That's how.
They manipulated the dawn of human 2.0, made it dangerous, made me. I'm going to use every advantage I have to stop them. My advanced capabilities convinced Interpol to recruit me to their counter-terrorism task force, despite objections within the team. I'm willing to endure their prejudice, so long as it furthers my hunt for the true threat.
Not gonna go all wonky on us now, Hansa, are ya?
If I do, MacReady, I guarantee you'll never see it coming. Turns out my military-grade enhancements were hiding a full set of cutting-edge experimental Augs. You're telling me I got more implants than I thought I did?
More than your body can handle.
Meaning my ability to infiltrate, fight, and circumvent has now grown exponentially. Right along with the increasing threat level.
I didn't ask for this.
Ouais, j'attendais
qu'ils le disent. Ça dure 6 minutes. Hein, on
ils veulent
pas...
vraiment nous le vendre. Hein?
Exactement.
Et là, il y a des toilettes pour les augmentés, des toilettes pour les...
Ça fait penser,
on joue vraiment avec le civil, tu sais, je veux dire, les
la
droits
patate,
civils.
Ça fait penser à l'espèce d'idée ouais. qu'on a dans les X-Men. Là. T'as les X-Men, t'as les humains,
les mutants.
Donc, on attend ça très prochainement. On n'a pas été invité cette fois-là pour le tester, parce que malheureusement, on n'a pas travaillé dessus. On n'a pas fait le making-of, mais... C'est bon de nous inviter pour l'essayer.
Plus il tient probablement ses meubles.
Donc, je ne sais pas si David nous écoute chez Eidos Montréal. Oui, c'est Eidos Montréal.
S'il nous écoute, on est libre.
On est libre, on va aller tester ça. Souvenez-vous, on a trouvé des bugs. Yann avait trouvé un bug incroyable qui aurait pu saboter le jeu, mais grâce
clôture,
à Yann, la clôture.
C'est ma clôture.
Exactement.
À chaque fois que je la vois au début, là, je dis, c'est ma clôture.
C'est ma clôture. Donc, si ça vous tente, les gens d'Eidos, qu'on ait faire un tour.
Mais là, j'aime le point un peu qu'ils ont amené, qui te présente tout de suite dans la bande-annonce, où, tu sais, à la fin du premier. Doucex, on s'entend que t'es pas mal un monstre. Là. T'es boosté, toute la kit, t'as pris tes habiletés. Là, ils disent, ah, j'ai d'autres habiletés que je savais pas que j'avais, puis ensuite, tu sais, qui étaient cachées. C'est qu'au moins, ça, c'est pas si pire, le concept d'avoir comme un upgrade. Ouais. Comme ça, on retombe pas dans le concept de Kratos où, à chaque premier 45 minutes du jeu,
je perds tous mes pouvoirs,
puis je recommence à zéro. En même temps, ça, c'est quand même, ça risque d'être mieux équilibré.
J'ai pas l'impression qu'il va commencer avec tous les pouvoirs que t'avais à la
fin.
Il va sûrement en perdre quelques-uns, là. Ça va commencer fort, puis il va sûrement avoir des panels.
Il y a un virus, genre, qui va affecter. Puis moi, je prédis de quoi, là? C'est pas un spoiler, mais son équipe, là, qui travaille, là, pour Interpol, là, un moment, ils vont courir après. Ça fait un peu Captain America avec le Strike Team.
Ça fait de l'autre côté de la loi.
D'après moi, un moment, il va devenir Rogue. Quelque chose, là. C'est le genre de voir ça.
Jack Bauer style.
Il y a Paul Orne qui dit spoiler, j'ai pas fini le premier.
Ah ben là, il est sorti quoi en 2009?
Non, puis je te dis, à la fin, Jésus renaît. Puis,
hey, je l'ai pas vu encore.
Je l'ai pas lu.
Ça fait 2000 ans.
Il est tout le temps là, par exemple, quand je lis des chambres. Ah non, moi je l'ai pas
fait ça. Il y a un kit intéressant, si ça vous tente d'acheter le. Comment ça s'appelle? Le Augmented Collector. Il est quand même joli. Il y a bien du stock dedans. La statuette, des patentes, des bebelles. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je vais aller voir comment ça coûte, ces affaires-là.
C'est 199,
ça se peut-tu? 189 chez... Excuse. Ouais, non, c'est pas grave. Si vous allez, attends, je vais aller faire un tour. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? L'as-tu vérifié un peu, Yann?
Non, mais je savais qu'il y avait, au début, je sais pas si tu te souviens, l'année passée, c'était le concept de plus de monde précommandait.
Oui.
Là, on pouvait voter pour ce qu'on voulait.
Mais ils abandonnent ça rapidement.
Là, maintenant, ils abandonnent ça, puis ils nous donnent tout le package au complet.
Je sais que c'est une sage idée, ça. Donc, si vous, ça vous tente de l'acheter, le gros NES Edition, là, il est 189 $. Les versions normales sont 80 $, autant sur Xbox.
Ça commence à être dispendieux, considérant que tu vas sûrement avoir des DLC.
Ah, c'est sûr qu'il va en avoir.
Tu checkes à 189, plus un autre 30$ de DLC, ça commence à faire cher pour les jeux.
Exactement. Il va être disponible sur PC également, sur Xbox. Ça vous tente d'avoir plus de détails, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site de Eidos.
Si vous jouez sur PC, je vais vous donner vraiment un bon cue, là. Steam, toujours 2 semaines avant la sortie du jeu, font toujours des très bonnes ventes pour les précommandes. Vous allez sauver un 15%, un 20% supplémentaire. Si vous êtes capable d'attendre puis vous jouez sur PC, si vous êtes sûr que vous voulez, d'habitude, je compte les précommandes là, à un certain niveau, là, de commander ça 6 mois d'avance.
Vas-tu le faire,
mais ça, si vous jouez sur PC, lâchez-vous lousse. Attendez un 14 jours avant la sortie, vous ne serez pas déçu. Steam fait toujours ça.
Donc, Eidos Montréal, on va avoir quelqu'un, la gang, là, on les connaît bien, là, c'est des chums, nous autres, même ce soir ici, on va jaser du jeu.
Ouais, 23 août.
Ouais, ben, c'est, on est des fans de ça. Ouais. 23 août prochain, ça sort, donc ça vous intéresse. D'autre part, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, toi, dans ta nouvelle de comment il s'appelle ce monsieur-là? J'ai oublié son nom.
Yann?
Non, pas de
Yann
toi.
Richards.
Pas de toi.
Il est recherché par la police.
Non, avant de parler de ça, je vais te parler d'une nouvelle patente. Tu sais que la mode est au selfie.
Oui.
Tout le monde aime prendre des selfies. Mm-hmm. Bon, les selfie sticks. T'en prends pas de selfie, Yann? Pas
non,
trop. De vrai que t'as des beaux cheveux. Ça,
mais je me trouve pas super. Je me trouve pas super photogénique.
Ah, comment?
J'en parle pas vraiment dans le concept de. Pourquoi le monde voudrait voir ma face en avant d'un tableau? Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Je pense que
tu Non, je sais, tu vas tu sais, lui, il est déjà écœuré de me voir 1 heure la face par semaine. Je l'écœurerai pas sur Facebook. Il va arrêter de me suivre. Non, mais j'embarque pas vraiment dans les selfies.
Moi, je te dirais que je fais pas une obsession du monde qui font une obsession sur ceux qui font des selfies. Ça me dérange pas que le monde fasse des selfies.
Ben là, ils ont sorti quelque chose qui était pas pire. C'est le Hover Camera. C'est une belle petite caméra qui a été inventée. Oui, c'est un drone qui sert à prendre des égo-portraits, des selfies, et qui va te suivre parce qu'il reconnaît ton visage, OK? Puis donc, si tu te promènes, il va te suivre. Il y a une autonomie de 7 minutes et tu n'as rien à faire, aucun contrôleur. Tu sors de ton sac, tu le mets à on, la batterie elle dure 7 minutes et ça peut prendre des photos de 13 mégapixels. Ça va te suivre partout, ça peut prendre des angles intéressants et tu n'as pas besoin de permis parce que maintenant, avec les drones aux États-Unis, tu as besoin des permis. Mais là, ça vole pas trop.
Ça a l'air d'être smooth. Hein?
C'est très, très smooth. Et si tu veux l'attraper, il n'y a pas de danger de te mettre les doigts dedans. Ça a été pensé. Puis tes doigts ne peuvent pas passer dans les trucs.
T'es financé par YouPorn.
Commence pas, toi, là. Ben, 7 minutes, ça t'a
l'air. Ben, 7 minutes, c'est bien en masse.
Qu'est-ce que tu fais avec les 5 minutes qui restent, tu veux dire?
Oups, c'est quoi qui a revolé dans l'écran?
Bon, non, bon, d'accord. Donc, c'est le Hover Camera. Ça va coûter quand même assez cher. Il parle de 600 $, cette affaire-là, pour prendre des photos. Mais la technologie qui est là, tu peux faire du 4K, la vidéo en 4K.
J'ai hâte de voir les gens qui vont sûrement se l'approprier. Parce que 7 minutes, c'est pas long. Mais j'imagine qu'il y a moyen de bonifier un petit peu l'infrastructure.
Tu peux le faire aller plus haut que 150 pieds. Mm-hmm. Tu peux le faire. Ça se contrôle à ce moment-là avec ton iPhone. Il y a une façon de le faire. Il faut acheter d'autres modules. adultes. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est justement le fait que tu peux pas briser les pales et si jamais ça tombe, ouais, c'est protégé. Il n'y a pas de danger de pogner la madame d'un cheveu en avant.
Tu sais, pogner toi avec tes doigts.
Exactement. Donc, ça a été fait par des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus. Il y a un processeur quand même intéressant. C'est un Qualcomm Snapdragon 801. Et la caméra, elle prend 1000 images à la seconde.
C'est incroyable.
Et puis, ça se stabilise, tout ça. Intéressant, belle petite technologie qui, à ma foi, un peu trop chère peut-être, mais c'est possible de faire du 360 degrés en achetant un adaptateur. Tu as vu, le gars descendait les marches.
Il suivait.
Ça suit, donc. Ça reconnaît ton visage et ça suit. Intéressant. Donc, je trouve ça, c'est un beau gadget. Il est futile ou inutile, je ne sais pas, mais sûrement des applications intéressantes.
En tout cas, si vous êtes prêt à payer 600 $ vous pouvez financer Radio Talbot.
Oui. Puis à ce prix-là, on va faire le show chez vous.
Ouais. Mais ce qui me plaît, c'est que c'est les possibilités. Ouais. Ça, c'est juste la première génération. Imagine à la longue comment ça va être.
Imagine des drones, de la police, comme ça, avec du face recognition software.
Absolument. Ça, c'est le début. C'est Skynet n'est pas si loin derrière.
Et paraît-il que c'est assez silencieux, contrairement aux autres drones, mais quand même, intéressant, beau gadget, belle, je trouve l'ingénierie intelligente là-dessus. Donc, ça vous tente de jeter un coup d'œil là-dessus. Il y a une vidéo qui explique en long et en large ce produit qui pèse 238 grammes seulement, qu'on peut plier, mettre dans un sac ou une sacoche et l'amener un peu partout. Over camera sera disponible très bientôt. 600 $ c'est cher, mais c'est le fun. Regarde, tu prends des belles photos en famille, regarde ça, les enfants. C'est cute. Envision the vision of the world. Merci beaucoup. Non, beau gadget. J'aime ça, les bébelles de même. Vous autres?
On pourrait le tester, ce serait le fun.
Penses-tu qu'ils vont nous envoyer une unité?
Ah, c'est cool, mais oui.
Ouais, je pense pas, moi, mais... Parce que je pense qu'il n'y en a pas encore. Leur Kickstarter vient de finir et puis ça a été très, très bien, paraît-il. Parle-moi de Marvel puis Spider-Man. Qu'est-ce qui arrive avec eux
autres? La semaine passée, Spider-Man qui va être dans l'univers consensuel de Marvel, c'est une entente qui est assez surprenante parce que bon, ça s'est fait il y a quand même plusieurs mois de tout ça, mais finalement, Sony, qui possédait les droits cinématographiques du personnage, ont signé une entente avec Marvel Studios pour finalement que celui-ci fasse une apparition dans l'univers consensuel de Marvel. Ça veut dire qu'il rencontre Iron Man, qu'il rencontre un autre personnage. D'ailleurs, il va être à la fin de... Ben, il va pas être à la fin, mais il va être dans Civil War. On a vu l'extrait.
Mais il va être dans la fin annonce. Aussi. Okay. Dans le post-credit. Quand
bon,
mais
là, t'es en train de me spoiler, Yann. Je le savais pas, ça.
Tu le sais.
Tu vois, une fois
divulgue gâcheur, madame, monsieur.
Une fois par show, il me spoil.
Gracieuseté de simplement.
T'aurais resté quand même à la fin des crédits, right?
Oui, mais je l'aurais découvert.
Bon, ben là, tu le sais. C'est que t'as quelque chose à attendre avec impatience. Mais
merci, Yann. Merci beaucoup. Mais la semaine passée, on apprenait que Robert Downey Jr. allait jouer.
Ça va mal virer à soir.
C'est pas grave. On se taquine tout le temps de même. Mais en tout cas, lui, il a l'air maudit pour vrai.
Mais non.
Mais la semaine passée, on apprenait que Robert Downey Jr. allait être dans le film Spider-Man Homecoming, le premier Spider-Man.
Il va jouer.
Il va jouer à Red Man, sans doute. J'ose espérer.
C'est le Green Goblin.
C'est le Green Goblin. Et ça serait un maudit spin-off. Ça serait vraiment malade. Super intéressant. Mais au-delà de l'entente, il n'y a pas beaucoup de détails. On s'entend que j'imagine que Marvel Studios a payé les bidous pour que la franchise leur revienne.
Ouais, mais puis surtout, en plus, je pense que les contrats de Robert Downey, c'était pour l'univers de Marvel. Ça veut dire que c'est un nouveau contrat qui est signé pour Sony.
Je pense qu'à chaque apparition, maintenant, Robert Downey Jr. est rendu une position tellement forte qu'il peut renégocier son apparition. Jusqu'à récemment, j'ai lu qu'il serait peut-être intéressé à faire un Iron Man 4, chose à laquelle il avait fermé la porte dans le temps. Fait que j'imagine que quand il y a beaucoup de sirop sur le chéquier, comme n'importe qui, il n'est pas fou. Là.
Beaucoup de sirop sur le chéquier.
Ben ouais.
Je pense qu'il est un peu comme Harrison Ford aussi. Lui, négocie un pourcentage des revenus, comme genre 0,5% ou 1% des revenus, des choses comme ça.
Mais j'imagine que c'est aussi une manière de faire littéralement le pont entre l'univers consensuel de Marvel et le Spider-Man qui s'en vient. Mais ça, c'est tout du old news, là, c'est nouvelle de la semaine passée. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des gens de Hey You Guys, qui est un projet britannique à la première de Civil War, parce que Civil War est déjà sorti
en France.
En France, ouais, les maudits, ils l'ont déjà, eux autres.
Les salue d'ailleurs, merci beaucoup d'être là.
La gang de Hey You Guys ont interviewé Kevin Feige, qui est le président de Marvel Studios, qui est une des têtes dirigeantes, non seulement de Marvel Studios, mais aussi une des têtes pensantes. C'est un
vrai geek.
C'est un vrai geek.
En entrevue, lui, il aime sa job.
Il connaît vraiment le
stock. C'est pas genre, là, il y a un gars qui s'arrive à côté et qui chote dans l'oreille et qui dit... C'est parce que Tony Stark, c'est lui, Bruce Banner, c'est un tel. Alors, il connaît son affaire.
Il est tout courant. Là, tu sais. Puis je pense que c'est pour ça que les films sont si bons, sont capables d'autant diriger vers les fans, genre Yann puis moi, et les gens qui ne connaissent moins ça. Mais dans le petit échange qu'il y a eu avec You Guys. Mais non. J'écoute aussi des films de super-héros, Denis.
Oui, j'adore.
Tu suis-tu?
Oui.
Quand tu les écoutes?
Oui.
Bon,
oui.
T'es correct, t'es un fan.
Je suis allé voir Star Wars deux fois, j'ai pas compris la première fois, c'était compliqué.
T'es en français, c'est pour ça.
En français puis en anglais.
Ah, bon. Tu comprends pas, tu réécoutes le cas.
C'est le fun en français puis en anglais. Ça finit pareil. En anglais puis en français, ça finit pareil.
Oui, ouais. le 4 et le 7 aussi finissent pareil.
C'est ça. C'est vraiment compliqué comme film, moi. Je...
Mais il y a une petite information que Kevin Feige, président de Marvel Studios, a lancée. C'est que Marvel Studios avait le contrôle du prochain film. Donc, oui, travaille, contrôle créatif. Donc, oui, travaille en partenariat avec Sony Pictures. Mais au niveau de la scénarisation, tout ça, tout ce qui implique la créativité, c'est Marvel.
Pour que ça fitte dans l'univers, probablement, de Marvel.
Pour que ça
peu,
fitte,
là.
Mais en même temps, pourquoi est-ce que Sony a accepté de partager maintenant le personnage? Parce que c'est un personnage qui était très rentable. Les derniers films n'ont pas eu un grand succès.
Et pourtant, Garfield, je l'avais trouvé bon.
Les acteurs étaient bons. Et moi,
je trouvais
Stone,
meilleur
Garfield,
que Maguire.
Il était bon. Les acteurs étaient bons, mais les films n'étaient pas bons. Ouais. C'était dirigé à un public trop jeune, mais même là, c'était pas...
Même là, on a critiqué pas mal les Avengers avec les explosions, puis Batman versus Superman. Comme quoi, dans le premier Man of Steel, Superman, il détruit la moitié de Metropolis. Mm-hmm. Mais la scène dans le deuxième Amazing Spider-Man, là, où Electro prend le contrôle de ses pouvoirs à Times Square... Là, tabarnouche, là, je l'ai revu à TV il n'y a pas longtemps. Là. Il y a du monde qui pète là, puis pas à peu
c'était
près.
C'était pas
là.
Un très bon film non plus.
Non, mais
deuxième,
je veux juste dire que tu sais, des fois, on aime ça critiquer un peu Zack Snyder, puis son concept est Bigger is Better, là, mm-hmm. un peu à la. Comment il s'appelle, Monsieur Transformers, avec ses explosions.
Michael Bay.
Michael Bay, là, genre, OK, c'est beau, on a compris.
Mais je pense que dans le cas, par contre, de Zack Snyder, c'est pas tant qu'il y a des explosions, puis ça pète partout, c'est que les personnages sont. Témoins de ça, puis ils font rien avec.
Ouais,
ce qui est un peu la différence. Mais tout ça pour dire que moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, parce que non seulement c'est pas juste une entente qui est financière, c'est une entente qui est un niveau créatif. Parce que Marvel est la main mise sur le projet. Cool. Je trouve ça vraiment intéressant, parce que justement, ils ont perdu la main, Sony, avec les deux derniers Spider-Man, qui n'ont pas fonctionné vraiment. Les critiques étaient très mauvaises à leur égard, et je le comprends. Là. C'est la raison pourquoi finalement, ils ont signé avec Marvel, parce que ça donnait rien d'aller dans la même voie, ce qui était pour se replanter, puis rendu à ce stade-là, il n'y avait quasiment pas le choix de soit faire un troisième Amazing Spider-Man ou de faire une refonte. Fait que, tant qu'à faire une refonte, ils sont allés avec Marvel, mais c'est Marvel qui a appris depuis des années à faire des films de super-héros, qu'importe ce qu'on en pense, qui fonctionnent bien, mm-hmm. qui rapportent beaucoup d'argent, qui sont aussi, je vais le dire, intelligents. C'est pas de la bullshit. Là,
me dit, c'est des films de super-héros, je leur dis, allez voir The Winter Soldier.
C'est une
très bonne critique sociale aussi en même temps sur
est-ce
que c'est correct de punir les gens avant qu'ils commettent leur crime, même que ça s'en vient de plus en plus. Maintenant, on en parle, c'est d'actualité.
Ouais.
Puis, si tu regardes un film comme Ant-Man, pour ceux qui aiment des films de vol, de banque ou tout ça, oublie que c'est dans l'univers d'un super-héros.
Ça fonctionne super bien.
C'est un super bon
Guardian,
movie.
Guardian of the Galaxy, un très bon film de science-fiction à la Star Wars. Donc là, tu vas avoir des gens qui savent ce qu'ils font, qui ont développé une expertise, qui vont créer Spider-Man, un Spider-Man qui fait partie de l'univers consensuel de Marvel.
Des connaisseurs.
C'est ça que je trouve intéressant. Je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Mais écoute, c'est que les néophytes connaissent pas ça, puis ils se disent « j'en ai ma claque des super-héros ». C'est ça le problème. Mais quand tu connais l'univers, puis tu as la chance de voir où ça s'en va, puis tu vois que les tangentes... On suit pas les sentiers battus, finalement.
Non,
on va chercher des héros qui sont pas nécessairement connus du public, puis on les met en avant-plan. Moi, je trouve ça super.
Il y a une couple d'années, on m'aurait dit, « Hey Ben, non seulement tu vas avoir des films de Captain America, les Avengers, tout ça, mais en plus, tu vas avoir des personnages comme Doctor Strange qui s'en vient, Guardian of the Galaxy. Guardian of the Galaxy, qui connaît ça? » Ils ont pris des libertés, ça a fonctionné, le public est au rendez-vous.
Netflix. Go for it. Je veux dire, qui aurait... Moi, il y a 10 ans, là, tu m'aurais dit que Luke Cage puis Jessica Jones auraient leur série télévisée, puis... Ça serait bon. Je veux dire, quand tu y penses, c'est pas un spoiler, mais si vous avez fini la saison 2 de Daredevil, à la fin, il y a une bande-annonce de 30 secondes de Luke Cage.
OK, ça c'est correct. Ça,
mais là, j'ai-tu le droit de dire qu'il y a une bande-annonce?
Ça, t'as le droit de dire ça,
aperçu.
Mais
je veux dire, puis ça a de l'écho, parce que déjà là, juste avec le 30 secondes, tu vois que le ton, il est déjà un petit peu plus humoristique. que Jessica Jones puis Daredevil.
Mais souvenez-vous, quand on a appris que Netflix faisait une série sur Daredevil, on s'est tous dit « Oh my God ».
Ah, pas parce qu'on avait moi, j'étais content. Oh,
ouais, moi, au début, on avait
moi, j'avais Ben Affleck encore en mémoire. Puis, même Deadpool, on parle de prendre des chances. Qui aurait cru, encore une fois, Deadpool qui casse le quatrième mur? C'est vulgaire, c'est air, c'est, je veux dire, c'est vraiment pas pour les enfants. Ça a battu des records, puis c'est bon.
Puis ça, oui, ça a été extrêmement rentable pour...
Century Fox.
20th Century Fox, qui a fait le
même
film.
Même les jokes, ils niaisent les X-Men à la planche. C'est toujours
ils niaisent les films de super-héros gros, grand complet.
Tu sais, quand ils visent les Super-Hero Landing, là, toutes ces jokes-là, là, c'est super
ils connaissent
bon,
les codes, un peu comme le personnage dans la BD. Mais tu vois, un film comme Deadpool, ça... Ça n'aurait pas existé si Guardians of the Galaxy n'avait
pas fonctionné, c'est vrai.
C'est comme cette série-là qui a pavé le chemin pour les autres.
Tu le sais, Denis, tu as fait de la télé pendant des années. Il y a une recette qui fonctionne, on va la répéter de 7 ans qu'elle se faisait à corde. C'est très difficile de demander à du monde de prendre des chances parce que les gens ne veulent pas se péter à gueule parce que souvent leur job est dans la balance aussi, là, on comprend ça.
Prends pas de risque, man.
Mais quand si le risque prends... est pris, ça fonctionne.
Ça marche, laissez pavé, tu peux y aller. Mais tu sais, il y a une couple d'années, quand j'ai dit à mon boss, je vais faire un show sur l'informatique et les jeux vidéo.
Il voulait pas, hein?
Pas tout. Il n'y avait rien à faire avec ça. Une semaine avant le show, on n'avait pas d'ordinateur parce qu'il ne croyait pas. Puis débrouille-toi, trouve-toi en. Depuis ce temps-là, je suis partner avec nos amis de CIPC qui nous suivent et nous encouragent dans nos projets. Tu vois? Mais c'est ça. C'est ça le gros problème. C'est prendre des risques. Là, aux États-Unis, je fais une parenthèse avec le e-sports. Personne n'y croyait. Ça fait 15 ans que ça existe, les e-sports. OK? Personne ne touche à ça. Hein? Des jeux pour les enfants. Là, les gros réseaux, on décide, regarde, on se lance là-dedans, on y va. Là, une petite vibe. Là, écoute, les autres, ils ont dû voir quelque chose que moi, j'ai pas vu.
Ouais, mais c'est-tu qu'est-ce ton point que tu amènes avec ça que je trouve qui est très important pour le e-sports, ils vont un peu contre le contraire, c'est les gens plus jeunes, même si les gamers, la génération, on le dit, en moyenne, c'est 35 ans. Ceux qui écoutent souvent Twitch ou le e-sports ou YouTube ou ainsi de suite, c'est plus jeune, ça. C'est entre 15 et 25, donc vraiment la grosse masse de population qui l'écoute. Je ne dis pas que les autres plus vieux ne l'écoutent pas, mais je veux dire, le public cible. Ouais. Mais ce public-là, de entre 15 et 25 ans, n'écoutait pas TSN, puis ESPN, puis les Sports Network, puis ainsi de suite. Ils étaient sur Twitch. Les autres, le contraire que la télé traditionnelle perd du monde pour l'Internet, là, c'est la télé traditionnelle qui se dit « Oh, on va aller chercher le monde qui regarde ça devant leur ordinateur. »
Où est-ce qu'ils sont?
Ouais. On va leur diffuser sur notre poste à nous, puis là, on va vendre la pub par rapport à ça.
Mais
tu vois, le contraire, c'est qu'ils ont été recrutés du monde, qui ont été wise en faisant ça, les postes comme ESPN, ils ont été recrutés du monde qui n'étaient même pas abonnés ou qui n'écoutaient pas ces chaînes-là pour aller les chercher et les amener sur leur chaîne.
Juste répondre à quelqu'un, Tisane Machin, Tisane Technologue, qui dit « C'est la première fois que Talbot parle de e-sports. Hey, ça fait quasiment 2 ans que je me bats là-dessus. En dessous de quelle roche t'étais, cher ami? » Écoute, tu veux me faire dire ça, je trouve ça insultant un petit peu.
Mais c'est ça l'affaire que j'aime maintenant, c'est que les postes de télévision, surtout aux États-Unis, ils ont le plus grand public, mettons qu'au Canada, eux autres, ils ont pris la chance de dire « Je vais aller le chercher, ce public-là, moi, qui m'écoute pas, qui n'écoutent pas ma chaîne, puis qui sont tout seuls devant leur télévision, devant leur écran d'ordi, je vais les amener devant la télévision. Ça, je trouve ça cool.
Ben, j'étais en train de lire un livre, je vais juste finir avec ça, mais dans le livre, il donnait l'exemple que l'imprimé, son audience s'est faite, entre guillemets, volée, si on peut, d'une certaine façon, par la radio. Ça a été le même cas pour la radio quand la télé est arrivée, après l'Internet. Et même dans le cas de l'Internet, en ce moment, c'est les applications réseaux sociaux à même l'Internet. C'est comme une évolution de... Puis c'est normal, quand un nouveau type de média, une nouvelle façon de diffuser du contenu arrive, les gens, surtout ça fonctionne avec le modèle de vie et les choses vont vite aujourd'hui, que les gens vont l'adopter, ils veulent pas se compliquer la vie, tu sais. C'est normal. Je pense que c'est comme n'importe quoi en ce moment. Regardez ce qui se passe, parce que dans 10 ans, on n'aura pas le même discours. Dans 10 ans, on va être passé outre ça.
Dans 5 ans, man. Ça va tellement vite, ça évolue à vitesse grand V. Puis là, le feu est allumé en dessous des fesses de ceux qui n'ont pas pris de décision pendant toutes ces années-là, puis qui ont, en anglais, ils disent coaster, ils ont descendu à la côte. Là, la côte, elle commence à monter. C'est vraiment plus difficile la coaster, justement.
Regarde des médias comme Vice, qui est un média à la base qui était papier
underground,
ici. Underground, ici à Montréal. Ouais. C'est un Canadien, Shane. Je me souviens plus exactement son nom. Mais bon, il a lancé ça. Maintenant, il est rendu. Il y a des partenariats avec HBO. Ils ont leur propre chaîne de nouvelles.
Hey, les documentaires qu'ils font, entre autres.
C'est génial. Avec Ubisoft.
Avec Ubi, c'est une belle publicité directement. Mais écoute, sur les virus, tout ça, c'est incroyablement bien fait.
Tu vois que leur contenu est formaté et diffusé pour une certaine génération. Parce qu'en ce moment, éventuellement, c'est eux qui vont avoir le contrôle, le pouvoir d'achat, si on veut.
Ben oui.
Non, j'ai hâte de voir où ça va mener tout ça.
Ah, c'est stimulant tout ça.
Oui, je trouve qu'on est dans une période le fun, sauf si on est un boss de réseau. Ça doit être un peu plus fatigant parce que
tu vois.
Ils sont d'ailleurs un peu stressés. D'autre part, Yann va nous faire une critique un peu plus tard de.
D'un petit jeu
avec lequel tu t'amuses follement, j'imagine. Depuis... Ouais. T'as mis combien d'heures sur ton petit jeu en question?
Je vais être proche de 55.
55 heures?
Ouais.
C'est malade mental. As-tu joué un petit peu à The Division?
Non. Je l'ai commandé, puis je l'attends. Je l'ai pas. J'adore.
Cyberpunk, as-tu joué à ça?
Non, c'est pas sorti.
Non, je sais. As-tu vu? Okay. Excuse-moi. Vas-tu jouer à ça?
Ben oui.
Hein? Ça a l'air super bien.
Oui.
La gang de CD Red, Project Red.
Project.
Hein? C'est malade. La bande-annonce est vraiment belle. Si vous ne l'avez pas vu, on va vous la présenter un petit bout.
Ah oui,
c'est
cool,
vraiment cool. Ça fait penser un petit peu à, justement, à Deus Ex. Qu'est-ce que t'en penses?
Bon, oui, c'est vraiment du style. Tu vas aller voir. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Razor wire spinning around,
malade.
Puis ce qui est cool avec ça, là, c'est qu'ils ont même un lien avec Witcher 3. Pour ceux qui ont pas... Puis là, c'est pas un gros spoiler du jeu, là. Le jeu est quand même sorti un bout. À un moment donné, quand on trouve Ciri, elle parle avec Geralt, puis elle dit « J'ai visité un monde où ce que tout le monde a des ordinateurs dans leur cerveau, des choses comme ça. » Puis lui, il sait pas de quoi qu'elle parle. C'est que tu vois qu'à un moment donné, c'est comme un petit lien avec le monde de The Witcher 3. C'est que ça, c'est cool.
J'aime ça.
Coming when it's ready.
Exactement.
Arrêtez de le demander, arrêtez de m'en parler, c'est ça. Puis je leur fais confiance. Même si c'est dans 2 ans. D'après moi, il parlait de 2017.
Exactement. Il parle entre... Ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça va sortir entre 2017 et 2018. Ils se donnent la place. Bon, ils se laissent le temps.
Pourquoi se dépêcher?
Puis ils disent que ces gars-là, moi, je les ai rencontrés quand je suis allé en Allemagne, puis ils vont travailler sur 2 projets à la fois maximum. C'est pas le genre de studio qui va faire en sorte qu'on va... Tu sais, on va 1000 jeux en même temps.
Ouais.
Non, on va en faire, on va finir Witcher comme il faut, on va faire du DLC, un DLC qui s'en vient.
Oui, il y en a un qui est sorti, l'autre s'en vient.
C'est ça, tu vas-tu jouer à ça aussi?
C'est du blasphème, là, mais j'ai même pas fini Witcher 3 encore.
Il y a trop d'affaires qui sortent en même temps.
Je le sais.
Toi,
c'est... Mais moi, c'est parce que je suis le même. Je vais jouer intensivement un jeu, puis quand j'approche vers de la fin, puis je le sens...
Tu veux pas le finir.
Je veux comme pas le finir, c'est que je ralentis, je recommence d'autres choses.
T'as toujours fait ça, Yann.
Est-ce que t'évites de conclure dans la vie?
Oui, oui. Des fois, je me dis, j'aime pas la fin.
Oui.
Des fois, la fin m'apporte beaucoup de tristesse.
Est-ce que la fin est un synonyme de peur chez toi?
Oui, j'ai peur. C'est pour ça, quand j'étais jeune, tu sais, puis ma première blonde me laissait, j'étais mais non, on peut pas, on va se marier, on va se marier ensemble. C'est la fin. Tu sais, dans ma tête, je sortais avec elle, mais on était pour se marier,
Est-ce que parfois, tu vas même continuer, même si tu sais que la fin devrait être faite?
Oui. Des fois, j'ai de la misère à couper. Tu sais, couper les ponts. Des fois, je vais endurer de me faire traiter. Peut-être pas comme je sais que je mérite mieux que ça.
Mm-hmm.
Mais en même temps, je me dis, oui, mais peut-être qu'elle va changer. Peut-être que ça va se poursuivre puis ça va revenir comme c'était avant. Parce qu'un coup que tu coupes le pont, tu peux pas le reconstruire après.
Mais
c'est fini.
Est-ce que c'est la peur de la défaite ou la peur d'être seul?
Je pense que c'est plus la peur de la défaite. Savoir que j'ai échoué dans quelque chose que j'ai commencé puis que je me suis intégré,
investi.
Je me suis investi beaucoup.
Excuse-moi, c'est tout le temps qu'on avait, ça fera 200 $.
Ah, okay.
Ça sert à ça aussi, Radio Talbot, mesdames, messieurs, à mettre la table. Ceci étant dit, pour faire ce fameux ce jeu de Cyberpunk 2077, ils ont doublé leur effectif. Il était 400, donc ils vont aller 800 personnes pour travailler sur les deux projets.
Parce qu'ils ont le budget avec les ventes qu'ils ont eu de Witcher 3.
Oui, effectivement, ça va super bien pour eux autres. Donc, regarde, Cyberpunk 2077 devrait arriver en 2017 et 2021.
Entre.
Okay. À quelque part là-dedans. Fait qu'ils se laissent la place. Puis quand ils vont être prêts, on va vous le lancer. Puis encore une fois, c'est sûr qu'ils vont avoir un paquet d'affaires. On ne sait pas grand-chose, par exemple, sur Blood and Wine. Ils n'ont pas dit grand truc. Nouveaux environnements, nouvelle patente, une nouvelle mission.
On ne sait pas. Ben, plus qu'une mission, probablement. Oui,
c'est
mais
ça.
Mais un genre de voir.
Fait qu'ils gardent ça très, très proche. On sait que ça va être encore une map qui va être plus grande, plus belle.
La seule chose qui me fait un peu peur avec CD Projekt là-dessus, c'est que, mettons que je donne un exemple, ça sort, mettons, en 2019.
Ouais.
Mettons 2018, on va être gentil.
Ouais.
On est en 2016, c'est okay. Dans deux ans.
Mm-hmm.
Ils ont toujours développé pour PC en premier. C'est correct de développer sur PC, sur mm-hmm. un jeu. Sauf que ce que tu développes là, ce que ça va avoir de l'air, c'est plus que les nouvelles générations avancent, plus que le jeu soit retardé ou des mises à jour. Et là, je me dis, pour les consoles next-gen, comment tu fais pour planifier ça présentement sur... Tu le développes là, mais si tu le développes sur une infrastructure comme la PS4 ou sur la Xbox One, on s'entend qu'en, mettons, 2019, est-ce qu'il va y avoir une autre PS4? Est-ce qu'il va y avoir une autre Xbox
One? La 4.5, t'sais, mettons.
Ou peu importe, ou une Xbox modifiable, ou peu importe la raison.
La NX.
C'est que, ouais, Nintendo. Ça, vous en avez parlé, c'est sûr que je ne reviens pas là-dessus, là, mais...
Tu m'en parleras, j'aime ça, avoir ton opinion là-dessus. Mais donc, toi, tu penses que...
J'ai peur un peu pour l'infrastructure
mais dis-toi une chose,
du jeu en tant que...
Quand ils sortent des titres qui sont développés pour PC, normalement, il y a des kits de conversion aussi qui existent pour faire la conversion vers les consoles, tout ça. Mais moi, je ne suis pas inquiet pour eux autres.
Est-ce qu'on a une idée si c'est multiplayer ou si c'est...
Non, c'est eux autres, ils se concentrent principalement. Ben là, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Ouais, on s'entend que le jeu... Mais normalement, eux autres, ils s'investissent beaucoup sur l'histoire solo pour avoir le plus de variantes possibles dans ton mode solo histoire. Tu sais, comme exemple, Witcher, il y a des décisions que tu prends dans les 6 premières heures du jeu qui va affecter la fin qui va arriver comme 50 heures plus tard. Eux autres, c'est vraiment leur force. Ça, puis je te dirais des quêtes, tu sais, c'est pas blanc ou noir, il y a beaucoup de gris. Tu sais, la plupart des quêtes principales de Witcher finissent pas nécessairement bien. Même si tu penses que t'as fait, mettons, je te donne un exemple, j'ai sauvé tout le monde, c'est donc bien cool, personne meurt.
Non.
Tu te dis, bon coup, tu te fais des high five, puis là, tu reviens 5 heures plus tard, puis le gars que t'as sauvé, mais il s'est fait corrompre, l'autre, il a tué sa femme, l'autre,
il a tué tout le monde.
Tabarnouche, qu'est-ce que c'est, cette affaire? Tu sais, ça, c'est vraiment leur force. J'appelle ça du. Je cherche le terme.
Game of Thrones.
Ouais, c'est ça, mais Denis va pouvoir mieux me le traduire parce que là, j'ai
c'est
la
quoi en français?
J'appelle ça du interactive storytelling. Tu sais, sur le fait que ce que tu fais, toi, a vraiment une conséquence sur l'histoire qui se déroule dans laquelle tu joues. Ouais. Un peu comme un livre dont vous êtes le héros, mais avec des vraies conséquences assez puissantes.
Assez qui peuvent être macabres par moment.
Oui, très macabre.
Le gars t'a sauvé, mais on dit hey, salut.
Ouais, il y en a un qui se pend. J'ai un autre que je sauve de bébite, puis après ça, il m'arrive avec sa gang, puis il veut me voler. Je dis, je t'ai pas sauvé tout à l'heure. Ouais, mais les temps sont dur, hein, tu sais, c'est que...
Les temps sont durs.
Fuck you, man. Excusez.
On dit pas ça, man.
Non, je m'excuse.
On dit pas ça, man.
Je l'ai tué.
Tu l'as tué?
Dans le jeu.
Dans le jeu, bien sûr. Parlant de tuer, un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Zombieland. Oui, moi, je l'ai aimé, ce film-là. Je l'ai vu, j'ai aimé l'ensemble de là.
Les Twinkies.
Oui, entre autres.
Bill Murray
est malade là-dedans. Ils en font un deuxième. Le tournage est déjà commencé, paraît-il.
En fait, c'est pas tant que le tournage est déjà commencé, mais il y a une rumeur comme quoi le film s'en vient.
Mais j'ai lu que c'était commencé sur Internet tantôt.
Moi, j'ai pas eu de confirmation encore, parce que même la nouvelle du film, comme tel que le projet aurait reçu son feu vert, c'est très nébuleux. Je vous explique pourquoi. Il y a environ un mois de ça, il y avait un congrès aux États-Unis qui s'appelle le CinemaCon.
Okay.
Dans le contexte de ce congrès-là, il y a des maisons de production, il y a des maisons de
les
maisons
propriétaires de cinéma
qui vont présenter finalement les prochains films apparaître sous leur étiquette. Dans le cas de Sony Pictures, ils ont présenté MIB 23.
Men in Black,
Crossover avec 21 Jump Street. Donc, ça fait MIB 23. Oui, mais c'est un projet qui, bon,
on avait
qui
parlé
s'en
de ça.
Vient. On avait parlé ici à l'émission.
Mais rien n'écoute pas le show.
Et bien. Dans une séquence de présentation, on voyait les logos des différents films qui s'en viennent. Donc, MIB 23, on avait Blade Runner 2 qui s'en vient de Denis... Denis Coderre, mais Denis,
oui, Denis, Coderre,
Denis Villeneuve. Et le logo de Zombieland 2. Là, l'Internet s'est enflammé parce que, bon, si c'est là, c'est parce que ça s'en vient et c'est confirmé. Vous avez un des co-scénaristes du premier film qui était un succès en 2009, ouais. Ça fait un petit boom. Rhett Reeves, qui a aussi coécrit Deadpool, c'est un petit peu le même niveau qui en février dernier avait dit même si la franchise est allée vers la télé, parce qu'on se souvient que...
Il n'y a pas eu comme un pilote pour Amazon Prime?
C'est là où j'allais. Non, mais c'est exactement ça.
Mais je l'ai, justement.
T'as le... Oh mon Dieu, t'es obligé?
Non, ben regarde, c'est drôle. Regarde ça, c'est juste drôle. They're absolutely foolproof. Comment survivre aux zombies? Rule 1, cardio. Rule 29, use the buddy system. I really can't tell you how happy we are to have you. So unfucking fair. Rule 8, get a kick-ass partner. Zombie kill of the week?
Week's not over yet. And be grateful. They're not trying to eat your face. It's not funny. It's the tiniest bit funny. Zombieland. Watch now for free at Amazon Instant Video.
For free.
For free. Mais Amazon Instant Video, qui n'était pas disponible au Canada, avait lancé une série de pilotes. Donc, le premier épisode d'une franchise.
Tu fais voter, je pense.
Tu fais voter, puis Zombieland s'est fait ramasser. Alors, ce que je disais, c'est que Rhett Reeves, qui était le co-scénariste du premier Zombieland, qui est aussi producteur exécutif sur le prochain, donc Zombieland 2, a dit que même si ça n'a pas fonctionné sur Video On Demand, donc un service de flux en continu comme ça, et le projet déjà est quand même en branle. La seule chose qui reste, c'est un scénario, puis on s'entend, c'est assez important, qui serait solide. Même Ruben Fischer, qui avait réalisé le premier film et qui va réaliser le deuxième, et J.C. Eisenberg et tous les acteurs qui avaient joué Woody Harrelson sur le premier film, s'il n'y a pas un scénario qui est béton, on ne veut pas embarquer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on montre le logo.
Emma Stone
était dedans, la jeune.
Sa sœur est inconnue aussi. Là.
Abigail Breslin. La jeune Abigail Breslin.
Elle avait joué dans genre Sunshine, quelque chose. Là,
ouais,
là. Elle était drôle.
Oui, était bonne. C'est une jeune actrice. Donc, tant que le scénario n'est pas assuré, ils vont pas aller dans cette direction-là. Mais là, tu as le logo qui apparaît au CinemaCon. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez spéculer tant que vous voulez.
Ben,
il n'y a pas de confirmation officielle qui a été donnée de la part du studio, donc de Sony. Là.
C'est sûrement un de ces blogs où les gens ont pris ça pour du cash.
Écoute, Denis, tu mets un point d'interrogation à la fin d'un titre, tu peux justifier n'importe quoi.
Exactement.
C'est un bilan de tournage en ce moment?
Oui, mais on l'affirmait. C'est pour ça que j'ai fait ça. Il y a Marc Lessard qui me dit, Denis, n'oublie pas que la chaîne Vice a été ramassée par Shaw Communication, a été ajoutée donc aux dans l'ouest du Canada. Ça, c'est très cool.
Je sais pas pense pas qu'ils ont été rachetés, mais je sais qu'ils ont un partenariat ensemble.
Ah, c'est très cool.
On me dit que c'est Little Miss Sunshine.
Little Miss Sunshine, c'est ça, oui.
Celle qui m'a comme dans un beauty pageant.
En fait, c'est un concours d'épellation, d'orthographe.
Ce qu'on appelle en anglais un spelling bee.
Un spelling bee. Et Steve Carell joue dans un personnage qui est dépressif.
Son nom gay, là.
Oui, dépressif, qui a failli une tentative de suicide. C'est super bon comme
film. C'est vraiment bon.
Intéressant, on va suivre ça. J'ai hâte de voir. J'espère qu'ils vont le faire parce que moi, j'ai bien aimé le.
Ouais, moi, avec, j'avais.
Puis Bill a volé chaud.
À la base, Zombieland, je fais un aparté, mais c'était fait pour la télé. Donc, quand la série a été prise par Amazon, c'était comme logique. Le Zombie Kill of the Week, donc l'espèce de... Comment... Le meilleur tuage ou... Comment tu pourrais dire ça? Meilleur...
Assassinat, quoi, non?
Assassinat, défendre comme un zombie. Meilleur Zombie Kill of the Week. Je sais pas comment dire
L'assassinat d'un zombie, le meilleur zombie...
Mais ça, c'était un concept qu'ils voulaient mettre dans la série télé.
Okay.
Fait qu'après, ça a été adapté au cinéma, puis c'est allé au cinéma. Après, c'est pour ça qu'ils ont essayé de la réadapter
pour la série
télé,
ouais.
Mais ça n'a pas marché. Le monde était en colère. T'sais, ils ont vraiment pas aimé ce pilote-là.
Mais le jeu était bon, nous autres. Un jeu qui ressemblait à ça dans le centre d'achat. Frank!
Ouais, Dead Rising.
C'est super bon. On a eu du fun avec ça. Ça aussi, c'est supposé d'en avoir un autre.
J'avais aimé l'autre sur la Xbox One. J'ai trouvé ça cool.
Là, les gens veulent savoir si je vais au E3 jusqu'à présent. À date, je ne vais pas. Malheureusement, je ne peux pas y aller. Mais on va suivre ça en direct ici et on va faire quelque chose, ça, c'est sûr. D'autre part, je pensais à Ben Gagnon quand j'ai vu cette nouvelle, la prochaine nouvelle, mesdames, messieurs. En fait, c'est un gadget très cool pour les propriétaires.
Moi, je n'ai pas de nouvelles, moi.
Attends, ce ne sera pas long.
Gagnon, je remercie.
On parle de Gagnon, il n'est pas là.
Gagnon, il n'est pas là.
Veux-tu arrêter de chialer, fatiguant? Attends, elle m'a défrisé, moi, tu continues.
Je vais boire.
Donc, M. Gagnon, c'est pour toi et ton épouse. Ton chien s'appelle comment?
Hey, moi, ah. Juste parce que tu me l'as demandé, je
vois. Pas Lucky.
Lucky, Pitou. Non, non. Pitou, on va l'appeler Pitou. Non. Tiens, regarde ça.
Sally.
C'est Sally,
hein,
tout ça,
oui.
C'est Sally? Sally. OK. Regarde ça, là, c'est le fun.
Non, vous êtes un chien.
Bye. Maîtresse est partie, je m'ennuie.
Cha-cha. Hi.
Oh, non.
Oui. Moi, je vois Ben faire ça au bureau.
Ben non.
Oui.
Une autre façon de procrastiner au bureau.
Ah, le chien jappe. Je viens d'avoir un message. Pourquoi il jappe? Je vais aller voir. Quelle bonne idée. Ton chien jappe, tu encourages le comportement en lui donnant un petit bonbon.
Good boy.
Parce que le chien l'entend, elle, ouais. Le voit. Et même la nuit.
HD Night Vision.
Oui.
Tout ce commandité par YouPorn aussi.
Arrête donc ton YouPorn. Regarde ça, c'est cute. Ah, regardez ça, vous êtes content. Votre chien est heureux. Toute la journée, il y avait pitché des pinates partout.
C'est pis... vrai ou...
Oui, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Ça s'appelle le Furbo. Furbo. Et c'est un projet Kickstarter qui a été financé, ma foi, très rapidement à 229%. Il demandait 50 000, puis ils ont eu 114 747. Ouais. Ça va se vendre.
Combien ils demandaient
50? Oui, ils ont eu 100, de double, finalement. C'est le fun, hein?
200%.
200%. Puis là, ça se vend à partir... de là, là, aujourd'hui, jusqu'à la, ça commence là, là. Et puis, ça se vend 100 piastres. Yann, comment?
Comment tu peux mettre ça puis garder tes enfants à distance aussi?
Parce que leur pitch des pinottes.
T'as un craft dinner.
Boum! Alors, Benoît Gagnon va sûrement faire quelque chose là-dedans. Mesdames, messieurs, vous l'attendiez. Ça fait des semaines que j'annonce qu'il va être là. Toutes les semaines, il me dit, ah, je peux pas, il y a quelque chose qui se passe, ceci, puis c'est ça. Finalement, il va nous faire sa critique d'un jeu qui s'appelle... Comment, Yann?
Dark Souls 3.
Dark Souls 3, mesdames et messieurs, avec Yann Richards. Tout d'abord, Yann, on tient juste à situer le personnage, l'être que tu es, amateur de Dark Souls, qui parfois va dire qu'il est malade, pas pouvoir profiter de ce jeu à pleinement. Il va dire, non, je peux pas y aller, j'ai des enfants ce soir. Mais Yann, tu m'as dit qu'il était chez ta mère. Non, non, je les ai ce soir pour profiter justement d'un maximum de temps avec cette relation intense que tu as avec ce jeu-là. Tu passes du temps...
Relation d'amour et haine.
Ah oui? Est-ce que tu as vraiment un problème d'amour-haine avec ce jeu-là?
Non, non, c'est juste que c'est frustrant quand tu meurs toujours à la même place. Puis
rappelons un peu la prémisse. Où est-ce qu'on est dans l'univers cette
fois-ci? Normalement, dans l'univers de Souls, ce qui est cool, c'est que un résumé rapide.
Ouais.
Le feu est arrivé, ça a donné du pouvoir à certains. Il y a eu 4 Lord Souls, si on veut, qu'il y a des pouvoirs à des gens. Et l'être humain, quand le feu commence à s'éteindre, ce qui arrive éventuellement, c'est que les humains deviennent comme des morts vivants, des undead. Et plus on meurt, on revient, on meurt, on revient, on devient hollow, donc vide à l'intérieur. Et là, on devient un peu comme feral, un peu comme fou, puis on attaque n'importe qui. Et il y a toujours le choisi, si tu veux.
The chosen.
Le chosen one, qui est comme l'élu. Toujours toi, l'élu.
L'élu, ouais.
Et lui doit faire sa quête pour réallumer la flamme, pour recréer, si tu veux, l'âge de la lumière, l'âge de la femme.
Okay. Comme dans nos
et normalement, quand on joue dans Dark Souls 1 et 2, c'est toujours un peu le début. Tandis que dans le 3, c'est pas mal la fin, je dirais. Là, de
la fin de du
la
cycle.
La fin de du cycle. Okay. Tu sais que là, on peut décider, est-ce qu'on décide de casser le cycle ou le continuer, parce que c'est le dernier de la série. Puis ce qui est vraiment le fun à voir dans cette série-là, dans le 3e, c'est que moi, je me souviens, quand j'ai acheté Demon's Souls, quand il est sorti, je pense, en 2009, j'étais le seul qui avait précommandé Demon's Souls. Et quand j'ai été chercher Dark Souls 3 le mardi à l'ouverture du EB Games, il y avait un line-up d'au moins 16 personnes en avant de moi, puis tout le monde était là pour Dark Souls 3.
Tout du monde qui avait écouté Radio Talbot, je pense.
Oui, probablement. C'est que ça, j'ai trouvé ça super cool de voir que la communauté embarque. Même si vous n'avez pas joué aux autres, c'est quand même un très bon point d'entrée, parce que le jeu est un petit peu plus facile à certains endroits que les autres. Les boss, il y a tellement de monde qui joue que si vous êtes vraiment pris dans les boss, c'est facile de demander de l'aide pour que les gens viennent vous aider. aider à battre les boss. C'est sûr que c'est un... Moi, je vous conseille de faire l'expérience seul le maximum possible. Et ils ont quand même bien arrangé les quêtes des personnages qu'on appelle les NPC. Dans certains jeux précédents, ce qui était difficile, c'est qu'il y avait des quêtes. Et il fallait que, exemple, que tu amènes, on appelle ça un summon, faire venir le NPC avec toi pour battre des boss. Il fallait qu'il survive, mettons, deux des trois combats, un des deux combats.
Si quatre, mourait, c'est que s'il mourait,
tu cassais comme cette chaîne-là de quêtes. Dans celui-là, les quêtes des personnages NPC qui se retrouvent dans ta base principale, je vous le dis, si vous faites juste explorer, sortir un petit peu des chantiers battus, c'est super facile de faire les quêtes de tout le monde. Vous allez les découvrir un moment donné dans un coin caché. Faites juste explorer, amusez-vous. Puis si vous êtes vraiment mal pris, prenez des chances, changez vos tactiques de combat. Les zones sont très variées, sont très cool. Les ennemis aussi. C'est qu'une tactique qui fonctionne sur un ennemi ne fonctionnera pas nécessairement sur un autre. Bon. Comme moi, il y a une place où j'ai trouvé super difficile parce que je me battais avec un épée et un bouclier. J'asais avec quelqu'un d'autre qui faisait la magie. Puis lui, il dit, moi, j'étais pas capable de faire cette place-là parce que les ennemis étaient genre plus résistants à la magie comparativement à les combats physiques et ainsi de suite. C'est un excellent jeu. Honnêtement, là...
Là tu disais, on s'entend que c'est un jeu qui est quand même... C'est pas facile.
C'est difficile. C'est
mais la courbe
difficile.
D'apprentissage, si, moi, c'est mon premier
C'est quand même bien fait. Sur le fait que c'est ton premier... Tu vas avoir de la misère à sortir du tutoriel au début. Ouais. Mais c'est correct que tu aies de la misère à sortir du tutoriel.
Mais ils prendront pas pour acquis que je connais tout. Là. C'est ça que
non,
je veux savoir.
Ils vont tenir par la main un peu au début pour finir le tutoriel. Si t'es pas capable de finir le tutoriel, c'est parce que t'es pas prêt à avancer dans le jeu. Tu comprends-tu? Okay.
Et t'es prêt à retourner l'échanger. Que...
ouais, il y en a qui vont dire, je vais bien. Tu vas juste recommencer jusqu'à temps que tu battes le boss. C'est ce qui va arriver, c'est ça. C'est qu'il y a des gens que c'est pas pour eux. Ils vont dire, ben là, je veux pas passer, mettons, 3 heures sur le même boss. Ce qui est vraiment ce que je trouve qui est bien équilibré dans celui-là pour ça, puis qu'on fait ça dans d'autres Dark Souls, c'est que même si on avance, éventuellement, il va toujours être des mini-boss entre les zones. C'est pas des vrais boss comme tels où ce qu'ils vont te donner beaucoup de rewards ou qui vont être super difficiles avec une grosse animation et ainsi de suite. Mais ce mini-boss-là, il est là pour voir si t'es assez fort pour continuer. Si tu l'es pas, mais continue à faire les mêmes zones, ce qu'on appelle du grinding dans les RPG, pour monter de niveau et ainsi de suite. Puis ça, ça encourage le co-op parce qu'à un moment donné, ça coûte. Moi, je suis rendu à un point tel où pour monter de niveau, ça me coûte 50 000 souls.
Wow!
C'est que le but, c'est pour... Je refais des boss. Je vais aider les gens dans des boss que j'ai déjà fait.
Donc, tu grindes.
Ça change la dynamique.
C'est mercantile, là-bas, ton...
Ouais, c'est, t'as pas un money. Ben, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi.
Ouais. C'est un RPG, pas
ouais, c'est un RPG. C'est un excellent jeu.
J'ai une question. Moi, les jeux de cette compagnie-là, c'est tout le temps des très beaux jeux, mais je trouve tout le temps que c'est...
C'est ça.
Il n'y a pas beaucoup de vie. Je trouve que ça fait aseptiser comme l'environnement. C'est comment dans le dernier?
Mais c'est comme ça un peu sur le concept que c'est supposé être à la fin d'un royaume.
Ouais.
Tout le monde qui reste, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un que tu peux parler, t'es impressionné parce qu'il n'est pas supposé rester tant de monde que ça ou qui ont encore leur tête. Tu sais, qui sont encore. Comment je pourrais dire le terme?
Là? Saint-Esprit.
C'est
quoi?
Saint-Esprit.
Saint-Esprit, c'est okay. ça. La part des mondes sont juste rendus un peu fous ou ils t'attaquent. Ou
donc,
sont,
à la fin, mettons, si tu gagnes, tu ramènes pas ces gens-là à.
Non, le monde est terminé. Tu sais, je veux dire, quand tu fais un monde, tu recommences, les mondes sont toujours à la même place. C'est la même chose que la série Souls. Faut que tu t'adaptes, les combats. C'est quand tu meurs, c'est toujours de ta faute, tu sais, techniquement, dans n'importe quel jeu. Sauf celui-là, c'est vraiment, il faut que tu t'adaptes selon les techniques des monstres dans lesquels tu fais face. Là.
Ouais.
Mais le but dans Dark Souls, ça n'a jamais été de sauver le monde. Le but dans Dark Souls, ça a été de prendre la décision sur le futur dans le monde dans lequel tu vis. Et c'est, encore une fois, c'est fait par une compagnie 100% asiatique. C'est que c'est pas blanc ou noir, c'est du gris tout le long. Mm-hmm. Il y a du positif et il y a du négatif à faire ça parce que eux autres, ils disent souvent dans le jeu, puis c'est vrai, la nature de la flamme, c'est de s'éteindre éventuellement.
C'est ça.
Est-ce que c'est naturel de toujours vouloir nourrir la flamme? On la nourrit-tu parce que ça nous fait du bien à nous? Ou le but de la flamme, c'est ça, c'est de mourir, puis d'en repartir un autre éventuellement. C'est, que, c'est ça, c'est des. Tu sais, c'est sûr qu'il faut lire entre les lignes pour trouver des raisonnements comme ça, tu sais, un petit peu philosophique.
Mais cette compagnie-là est reconnue pour
ben
ça.
Oui, ben
les
oui.
chaînes YouTube sont dédiées à tous leurs titres.
Ben, je t'avais montré, le gars, là, il y a un gars, je pense, qui est sur
Bloodborne.
Sur Bloodborne, il y a un gars, c'est Vativaya, je pense, sur YouTube. Il y a. il y a un Patreon, je pense qu'il est comme il y a du monde qui donne environ 5 000 piastres par mois. Puis le gars-là, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il fait des ce qu'on appelle des vidéos sur la série Souls où il essaie d'expliquer l'histoire cachée en arrière. Ouais. C'est ça qui est cool parce que le jeu, encore une fois, ne te prend pas par la
T'en
main.
T'en as-tu vu beaucoup, justement, du lore?
Oui,
pour
mais moi, c'est parce que là, je suis rendu au troisième. C'est que j'ai vu beaucoup de clins d'œil aux deux premiers. Je suis capable de lire plus souvent entre les lignes
Est-ce
en certaines situations.
Un clin d'œil à Bloodborne, je sais que c'est pas la même franchise.
Il y a
c'est
pas vraiment de clin d'œil à Bloodborne à part le deuxième monde comme tel qu'on rentre. Les ennemis qui sont là, l'infrastructure qui est là, j'avais l'impression d'être dans un niveau de Bloodborne.
Ok.
Puis ça, c'est deux critiques que j'ai dans ce jeu-là qui est pas très, c'est pas des grosses critiques, c'est ça. Un, le sortir tellement rapidement après Bloodborne, qui est comme un an après, on voit beaucoup d'inspiration. Tu sais, comme exemple, les boss qui ont différentes phases de combat, ça vient de Bloodborne. Certains looks esthétiques du jeu viennent beaucoup de Bloodborne. Mais le combat reste encore Dark Souls. C'est moins rapide que ce qu'on a trouvé dans Bloodborne. Et on est rendu... Pour faire le multijoueur, là-dedans, on a des convenus. Tu sais, comme des ententes, des
conventions.
Des conventions avec des exemples. Il y en a une, c'est faite pour le PVP. L'autre, c'est pour aider les gens. Il y en a deux qui sont pareil. Qui est comme Way of the Blue, Covenant of the Blue, puis les Blade Moon, qui sont sensiblement la même chose. Et ils ont vraiment des bugs pour se joindre. Comme moi, il y en a un qui s'appelle les Watch Dogs of Faerun. Ça, celui-là, on fait partie de ce Covenant-là, on est supposé défendre une section du jeu. Je me suis promené pendant 3 heures avec ça sur moi. J'ai pas été appelé une fois à aller dans un autre monde. C'est qu'il y en a qui ont des bugs un peu pour ça, pour le mode en ligne. Et je me suis mis Blades of the Dark Moon aussi pour défendre les nouveaux joueurs. Jamais été appelé une fois. Mais pourtant, un autre Covenant qui est aussi pour défendre une section, lui, je l'ai mis, puis je me faisais appeler aux 10 secondes. C'est que je sais qu'il y a des problèmes de connexion, mais veux pas, tu sais, From Software avec leur en ligne, ça n'a jamais été à 100% non plus.
Question pour toi, moi. Ouais. Quand je te regardais jouer, tu te sers encore une fois des bugs de collision beaucoup. Hein? À travers les colonnes.
Oui, ça, pour battre des gens, ça a toujours été. Mais il y a tellement d'armes, il y a tellement d'armures que, tu sais, sauf que c'est pas un bug où ce que ça t'avantage juste toi, parce que sa hache, elle va passer à travers le petit coin de mur qu'il y a là.
Qu'est-ce que tu as moins aimé dans ce jeu-là?
Ce que j'ai moins aimé, c'est le concept multijoueur, mais pour le look un peu PVP de certains Covenant, que je trouve qu'il rajoute beaucoup de jouabilité au jeu. Parce que si on tombe dans une section d'un jeu où on peut jouer beaucoup en ligne, on peut rester là 2, 3, 4, 5 heures et ça rajoute la longévité du jeu un peu. Tandis que là, moi, j'ai presque skippé cette section-là au complet parce qu'il n'y a rien que je pouvais faire.
OK. Donc, c'est un jeu qui a quand même hypothéqué ta vie de 50 heures.
50 heures, c'est que ça vaut la peine pour le prix. Là. Et même si vous n'avez jamais joué, la seule chose que ça va faire, si vous dites « Ah, je sais pas, c'est pas pour moi », au pire, allez louer-le au club vidéo, s'il y en a une encore dans vos coins.
Ça existe encore.
Mais je vous le dis, vous allez jouer à celle-là, après ça, vous allez dire « Ah, c'est sûr, je vais aller jouer au premier pour au deuxième. » Parce que vous allez tomber en amour avec la série.
C'est quoi ta note là-dessus?
Moi, je donne un gros 9.5 sur 10. Wow. C'est le meilleur de la série, seulement pour aussi le look nostalgique, les clins d'œil qu'ils font. Puis je vais vous donner un exemple tellement simple de clin d'œil qui peut paraître banal pour vous autres. Il y a un personnage qui était dans le premier Dark Souls qui s'appelle Avil the Rock. Le gars, il s'appelle comme ça parce qu'il y a un bouclier qui fait comme genre 3 fois sa grosseur. Il se bat avec une masse, tu sais, qui est comme 3 fois longue comme lui, puis une armure de fou. Tu sais, c'est presque impossible de faire du dommage. Un moment donné, on se promène dans le jeu, on peut aller sur un pont qu'on ne sait même pas qui est là. Il faut que tu le trouves en te promenant. Il y a un gros démon qui est là. Pis le démon, je le regarde, pis son armure, son look, ressemble à Avil the Rock. Pis là, je me dis, tabarnouche, c'est cool, ils l'ont fait comme un démon, tout ça. Je le bats, puis avec son arme, avec son arme à lui, je peux faire la bague de Avil. C'est que je suis là, c'est Avil the Rock, c'est cool qu'il ait fait ça. Vers la fin du jeu, dans une zone cachée, que peut-être du monde qui va finir le jeu ne le trouveront jamais. Il y a quelqu'un qui fait venir plein de NPC de tous les autres jeux précédents, puis je me bats contre eux autres. Avil the Rock, il est là! Pourtant, dans ma version que je l'ai vu, il est un démon, mais dans l'univers de Dark Souls, la raison pourquoi ils disent qu'il y a plein de monde, t'sais, qu'on peut venir ensemble, c'est comme s'ils disent que les failles entre les univers sont minces, c'est que le passé, le futur puis le présent sont mixés ensemble. Okay. Ça, c'est bien fait.
Okay.
Là, je me suis battu contre Avil the Rock. Il me drop son bouclier puis son arme. Puis là, à un moment donné, je dis, je vais retourner et je vais me réexplorer. Parce que le but dans Dark Souls, c'est que tu reviens en arrière, tu explores, puis il y a une nouvelle chose qui arrive. Je retourne sur le pont où il y avait le démon. Et en arrière du démon, il y a un corps qui est là. Puis quand je m'en vais fouiller le corps, il y a l'armure au complet de Avil the Rock.
Tu peux la récupérer.
C'est que là, j'ai récupéré. Mais il a fallu que je batte trois personnes techniquement pour avoir droit à cette armure-là. Il y a du monde qui ne retourneront jamais en arrière et qui n'auront pas trouvé cette armure-là.
Qui n'auront pas trouvé le pont
le lien qu'ils disent entre le passé, c'est que sa forme en démon était probablement sa forme future.
Okay.
Sa forme que j'ai battue pour avoir son arme, son bouclier, c'était plus le passé. Puis le corps qui est mort là, le c'est présent. Sa forme présente.
Ah, ouais,
il
ouais.
est mort probablement. Quand il s'est transformé en démon, il est mort comme ça.
Ouais.
Puis moi, je l'ai... C'est que tu vois, tu sais, le concept qu'on parle de lore, il n'y a personne qui me l'a expliqué. C'est moi qui fais l'interprétation de ça en jouant au jeu.
Ouais.
Peut-être que je me plante. Peut-être que les créateurs, c'est pas ça pantoute qu'ils ont voulu faire. Mais pour moi, je me suis créé ma propre histoire de Havel the Rock en jouant ça.
Indices.
Ou en me disant, le démon, c'est le futur. Je l'ai battu dans le passé. Puis ça, c'est le présent.
Mais ça se tient.
Ça se tient. Parce que ça, j'ai fait ça moi-même.
C'est un des reproches que les gens ont de ce jeu-là, par exemple, c'est que l'histoire est un peu confuse. Il faut vraiment être...
Mais c'est pas fait pour eux autres dans ce temps.
Non, c'est,
non
ça.
C'est ça.
Puis au niveau des passages temporels, ça aussi, c'est mal expliqué. Le tutoriel, est-tu bien fait, Yann?
Le tutoriel, il est bien fait où ils vont dire, t'avances, perds sur R1 pour attaquer, R2 pour ta force, puis le reste, ils vont dire, amuse-toi.
Mm-hmm.
C'est que tu vas découvrir certains aspects. Mais c'est là que tu réalises que pour quelqu'un qui est habitué de jouer à un jeu facile, de dire au pire aller, je vais reloader, mettons le terme, là, je vais tirer, si je meurs, je vais reloader. C'est sûr que Dark Souls, Bloodborne, c'est une autre histoire carrément différente. Tu sais, le nombre de. Faut que tu gères toujours ta barre verte, qui est comme ton endurance. Bloquer, ça te prend de l'endurance. Rouler, ça te prend de l'endurance.
Tout ce que tu fais, finalement.
Attaquer, prend de l'endurance. C'est que, tu sais, tout ce que tu fais devient. C'est stratégique, tu le fais. Deux coups, je me recule. Oui, peut-être j'aurais eu la chance. J'avais assez d'endurance pour donner un autre troisième coup, mais je sais que lui était pour swinguer, puis j'ai besoin de mon endurance pour rouler, pour esquiver. C'est que tout devient comme un jeu plus stratégique. Ça a l'air hectique quand on regarde ça. Ça a l'air fou. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. Mais dans ta tête, ton personnage, tu le sais, à un moment donné, puis il y a tellement d'armes. Hey, il y a des dagues, il y a des rapiers, il y a des scimitars, il y a des épées longues, des épées, des great swords, des long swords, des spears,
des lances,
c'est fou. Là, je te montrerai mon jeu là, avec toutes les armures que j'ai, toutes les armes que j'ai. Tu vas faire, ben là, qu'est-ce que c'est ça? Mais il y a du monde qui vont triper sur un style d'arme par rapport à un autre. Moi, j'ai changé d'arme à peu près 6 fois pendant
jouer. Ton kit préféré, c'est quoi? Ça, jusqu'à
là, moi, j'ai fini le jeu avec un bouclier, puis le dark sword, dark wraith. Je trouvais que le dark sword, parce que ces armes-là, tu peux les améliorer. Tu as des gems qui vont faire du feu, lightning damage, poison damage, sharp, blood damage. Tu sais, je veux dire, il y en a plein. Là. C'est que la possibilité de rejouabilité de ce jeu-là est immense aussi. Là.
Donc, je pense qu'il vous l'a vendu.
C'est
très intéressant. Merci, Yann.
Ça me fait plaisir.
Puis quand tu twitcheras, les gens veulent le savoir, tu m'appelleras. Puis
mais là, j'ai à peu près 4-5 vidéos sur ma chaîne Twitch là, qui est sous mon nom I Am Dr. Doom. Si vous voulez aller voir ça, il y en a que je donne des trucs, puis il y en a où je me promenais, puis je montrais les boss là, du jeu. Là.
Très cool. Parlons un peu de l'univers de Star Wars maintenant. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé.
Il me semble que ça fait longtemps qu'on a parlé de Star Wars.
Qu'est-ce qui arrive avec Star Wars? Il me semble qu'il y a un réalisateur qui va faire quelque chose de pas pire.
Ben, vous avez Rian Johnson, qui est le prochain réalisateur de Star Wars. Le tournage a commencé, Star Wars épisode 8. Il va sortir l'année prochaine, donc en 2018, sur les grands écrans, le 15 décembre. Non, excuse-moi, le 15 décembre 2017. Donc, c'est même pas dans 2 ans, c'est dans 1 an. Il y a tout l'univers étendu qui est en train de développer en roman et en comic book. Et il y a un roman qui s'en vient, qui est écrit par Claudia Gray. Et Claudia Gray sort un roman qui s'appelle Star Wars Bloodline, qui se passe avant les événements de Star Wars épisode 7, mais qui rajoute à toute la mythologie. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a eu une entrevue avec elle sur StarWars.com, qui est le site officiel de la franchise.
Mm-hmm.
On voit la couverture du roman ce moment.
Très
joli. Oui, ça, c'est Léa. Okay. Donc, elle expliquait dans l'entrevue qu'elle a eu beaucoup d'appui de la part de Rian Johnson, le réalisateur. Donc, c'est canonique. On a littéralement des liens qui vont se faire entre ce qui a déjà été établi dans Star Wars épisode 7 et le réalisateur de Star Wars épisode 8 a donné des conseils à l'écrivaine. Donc, on parle de quelque chose qui est vraiment bien ancré, j'ai l'impression, dans toute la mythologie de Star Wars. Yann parlait de Lord de Dark Souls. C'est un petit peu le même intérêt, mais pour les fans de Star Wars. On va entre autres expliquer les origines du First Order, ce qu'on voit dans Star Wars épisode 7.
C'est qui, Snoke? Smoke,
non, je pense pas qu'ils vont le révéler là-dedans, mais on va nous expliquer comment l'Empire est devenu le First Order. C'est quoi la résistance? Parce que c'est un élément dans Star Wars épisode 7.
C'est vrai, je trouvais ça weird.
C'est pas clair. Qu'est-ce que c'est? Si tu es officiellement reconnu par la Nouvelle République ou ça l'est pas? Qu'est-ce que c'en est? Donc, on va nous parler de ça. On va nous parler de la relation de Han et Leia, comment ça s'est désagrégé au fil des années. Donc, je trouve ça intéressant. Ça sort le 3 mai prochain. C'est la semaine prochaine. C'est mardi prochain, si je ne me trompe pas.
Mm-hmm.
Ça va vite. Donc, un beau roman. Ça a l'air bien intéressant, lié à l'univers de Star Wars et commenté, entre autres, ou appuyé par le prochain réalisateur du film.
Nice.
C'est cool.
Ah, juste un petit coup d'œil là-dessus.
Moi, ce genre de commentaire-là avec le réalisateur devrait faire comme les films, sortir un DVD et avoir une interaction avec les. Le, je trouvais ça intéressant.
Oui, ça pourrait être intéressant.
Ou une chaîne. Audio, une entrevue, quelque chose, ça serait super cool. Parle-moi un peu de Dota 2, un autre de tes jeux fétiches.
Oui, un autre que j'ai un peu délaissé, disons, à cause de Dark Souls.
Ben, je te vois jouer
de
temps en temps.
Ouais, une fois de temps en temps, une petite game rapide. Il y avait la patch qu'on appelle, là, la mise à jour 6.86 qui était là pour le tournoi de Shanghai.
Mm-hmm.
Mais il n'y avait pas beaucoup de failles comme telles, mais il y a des choses qui étaient vraiment débalancées. Et là, cette semaine, ils ont sorti le 6.87. Puis de plus en plus, je voudrais dire, Dota, d'après moi, ils ont de la misère. Parce que, veux pas, Dota est arrivé avant League of Legends.
Ouais.
Mais League of Legends a comme pris le concept que Dota a fait. Il l'a vraiment amélioré, vendu. Il y a beaucoup plus de joueurs de League of Legends qu'il n'y a de Dota 2. Et Valve essaie de percer le marché avec les tournois. Valve a donné les plus gros cachets de tournois que League of Legends, mais il y a moins de joueurs. T'sais, ils veulent vraiment aller chercher le monde. C'est que là, ils essaient de rééquilibrer un peu le jeu. Et là, dans la patch 6.87, ils ont fait quand même des gros changements. Il y a des changements à la carte, où il y a des nouveaux passages qui n'étaient pas là avant. C'est que ça change déjà là, les stratégies.
Ouais.
Les tours maintenant qui défendent ta base donnent un bonus d'armure à tes héros qui sont à côté. Ça aussi, ça change un peu la stratégie pour ça. Il y a des nouveaux items qui sont malades, si vous jouez à voir
par exemple?
Ça. Exemple, il y en a un qui s'appelle, je pense que c'est le Bloodborne, un épée, où que quand on l'active sur quelqu'un, cette personne-là, toutes ses habiletés sont désactivées pendant 5 secondes.
Fatigant.
Et tout le monde qui l'attaque gagne un bonus de dommage.
OK.
C'est que, mais c'est des items qui coûtent cher. Tu n'as pas ça dans les 15 premières minutes du match comme tel. Il y a des nouvelles habiletés pour certains personnages aussi. Ils ont changé un peu le concept de comment notre vie augmente dans le jeu. On a baissé. Ouais. C'est que les vies des héros est quand même un peu plus bas au début du jeu. Ça fait des jeux un petit peu un gameplay, ce qu'on appelle un petit peu plus agressif. Et moi, un concept que j'aime beaucoup qu'ils ont mis, parce que dans ce jeu-là, tu peux jouer comme relax. Puis il y a des rank game. Rank game, ça veut dire que ça me donne des points à chaque fois que je joue. Et ce qu'on appelle on voit souvent ça dans des jeux, c'est des brackets, là, genre entre 1000 et 2000, exemple, de capacité, 2000, 3000. Ouais. Les autres vont jouer ensemble. Et là, tu montes. Et là, maintenant, quand tu commences à jouer, tu peux voter sur de bannir un héros dans la partie. C'est que si, admettons, je donne un exemple, moi, je trouve que Legion Commander, il est overpower. Là, j'aime pas ça jouer contre lui. Il est trop puissant. J'ai le goût de jouer, mettons, Zeus, puis il est trop fort contre lui. Je vais voter pour lui. Et là, ils en prennent un de chaque équipe qui est voté, puis il sera pas disponible dans la partie. C'est que ça, c'est nouveau. C'est la première fois que je voyais ça. C'est la première fois qu'ils font ça aussi. Parce qu'ils le font souvent dans les tournois. Le monde peut bannir certains héros.
Ça dynamise
les rank games. C'est ça, parce que ça change. Parce qu'il y a souvent de monde. C'est que là, attendre pour prendre en dernier perd un peu son charme. Parce que souvent, il y a toujours du monde, on appelle ça des counter heroes. Des gars, si mettons, toi, tu prends un personnage, moi, je sais que si je prends l'autre, il est trois fois plus fort, il est bon pour te battre toi. Ça change un peu la dynamique.
Ouais.
Mais allez voir ça, les patch notes sont disponibles là, avant de télécharger la mise à jour. Puis vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup
Qu'est-ce
de choses.
Qu'est-ce que t'aimes le plus? Toi, t'aimes mieux Dota que League of Legends?
Ouais, puis j'aime Dota pour la seule et unique raison que là, vous allez me niaiser et vous dites que je suis cheap, là, mais. Dota, tous les personnages sont disponibles. Dota, un jouet, j'ai joué beaucoup quand c'est sorti au premier.
Ouais.
Et je connais déjà les héros, je connais les habiletés. Tous les héros sont disponibles tout de suite au départ.
C'est
tandis
gratuit.
Que League of Legends, c'est ça. League of Legends, il faut que tu payes pour acheter des nouveaux héros si tu veux les jouer. Ça, j'aime moins ce concept-là.
Docteur, il faudra lui parler de son rapport aussi avec l'argent.
Oui, oui, ça s'en vient dans une prochaine émission de Radio Talbot.
Ça s'en vient.
D'accord, merci beaucoup, monsieur, merci. D'autre part, vous l'avez demandé, attendez un petit peu, vous l'avez demandé, Google Play, vous connaissez ça, on a parlé la semaine passée, Radio Talbot est maintenant disponible sur Google Play. Je vais mettre l'adresse tantôt sur les médias sociaux, ça vous tente, vous pouvez faire une recherche, trouver Radio Talbot. Grâce à Tommy, aujourd'hui, il a placé donc nos émissions qui sont maintenant disponibles sur Google Play. Voilà, c'est fait, c'est réglé. Restez parmi nous, on aura le nom des gagnants dans quelques instants. Parle-moi donc de la toile pour les jeux qu'on a fait tirer hier. Parle-moi un peu de la 20th Century Fox. C'est ce qui se passe de bon avec eux.
Ça aussi, tu as trouvé ça intéressant. Ouais. Avant, les compagnies de films se présentaient au Comic-Con à San Diego et faisaient plein de présentations dans le Hall H.
Le mythique Hall H.
Le mythique. Et là, Century Fox était supposé faire des présentations cette année sur Assassin's Creed.
Uh-huh.
Et ils ont fait non, cette année, on cancelle parce qu'ils n'étaient pas. Il n'aimait pas le concept de la sécurité au Comic-Con parce que... pardon, j'ai des allergies. C'est que ça... Des fois, je me... Et à cause de l'année passée, Age of Apocalypse, ils montent toujours du contenu exclusif pour le Comic-Con.
Ouais.
Et 15 minutes après la fin de la présentation, c'était déjà sur YouTube.
Ben, c'est leaké. Sûr. Ouais.
C'est que Century Fox, ils ont dit non, on n'est pas prêts pour ça, pour faire leaker Assassin's Creed. C'est qu'ils ont décidé de se décommander. Et il y a Disney aussi qui commence à parler, qui n'aime pas le concept de sécurité au Comic-Con. C'est qu'ils sont pas sûrs éventuellement de peut-être continuer à faire des présentations là parce qu'ils ont peur que tout se ligue sur Internet. Écoutez, moi, je vous dis, ça fait juste la publicité.
Non, mais là, c'est ça. Moi, je peux comprendre le point de vue d'une compagnie de l'interne qui veut, jusqu'à un certain point, contrôler son message et l'envoyer au moment opportun, qu'il considère opportun. Oh, en même temps, si vous présentez une bande-annonce devant des gens qui sont d'un firu de votre produit,
c'est
en
sûr,
plus, ils ont
c'est
un téléphone
sûr.
Intelligent, c'est clair que ça va sortir. Donc, si vous êtes pour sortir quelque chose, attendez-vous à ce que ça circule. Il n'y a pas juste 7000 personnes qui vont le voir.
On se souvient l'année passée, quand il y avait fait Batman versus
ouais.
Superman,
ouais.
Je me souviens d'avoir vu sur YouTube le Bat-Signal avec les yeux rouges de Superman.
Ouais, ouais, ouais.
Puis j'avais fait « Ah, c'est nice!
Ah » ouais.
Mais je veux dire...
Tu l'as pas moins regardé, par contre, quand la bande-annonce est sortie.
Mais c'est ça. Quand la bande-annonce est sortie, j'ai regardé ça au complet.
Ouais.
C'est ça que je trouve un peu... Je comprends le concept, mais c'est pas ouais. comme s'ils font un visionnement complet du film puis ils ont peur de se le faire pirater. On parle de contenu exclusif puis de bande-annonce.
Là, il y a des ententes, par exemple. Il y a des ententes. Puis Ubisoft là-dedans aussi.
Oh,
puis il y a un paquet ouais. d'avocats qui se rencontrent. Puis là, il y a des clauses, puis il y a des affaires.
Mais d'où le point que si vous êtes pour le présenter, assurez-vous qu'après, c'est correct. Vous avez les
feux verts
de tout
après,
le monde.
C'est
la meilleure pub que tu peux pas avoir.
Absolument.
Laissez rouler. Faisons une version, 15 secondes, agace le monde. Mets une image avec un épée, ça va faire le tour du monde.
Je dois dire, par contre, que dans les dernières années, si vous regardez ce que Marvel le fait. C'est arrivé à une reprise, entre autres, pour Age of Ultron.
Ouais.
La bande-annonce est sortie sur Internet. Il y a quelqu'un chez Marvel qui dort pas au gaz. À partir du moment où ça a été lancé, ils ont fait « OK, était supposé sortir dans une semaine. » À moins que je mélange les dates, là, mais c'est ça.
Ouais. «
Était supposé sortir dans une semaine.
Go. »
On l'a lancé. Fait qu'il est sorti comme à 10 heures. Puis là, en plus, maintenant, tu as des événements. Tu as Jimmy Kimmel qui appartient à son show ABC qui fait partie de Disney, qui reçoit des acteurs,
qui amène des clips.
Il amène des clips. Là, le film sort, la bande-annonce du film sort à minuit le soir même sur Internet. Tu sais, il y a des happenings qui se créent autour de ça aussi.
Puis ça fait de la pub, ça fait des ventes.
Ouais.
Arrêtez de chialer. Puis présentez-les. C'est Google Play Music. Tantôt, j'ai dit Google Play.
Ouais.
C'est Google Play Music.
Music.
Donc, cherchez là-dedans. Vous allez le trouver. On mettra l'adresse tantôt là-dessus. T'as-tu joué?
Oui,
à Kony?
Ah, Nio.
Excuse-moi, Kony, je pensais à l'autre jeu.
Ninakuni.
Oui, c'est ça. Nio, as-tu joué un peu?
Nio, ouais, j'ai joué un peu. J'ai
moi
pas
aussi.
Terminé. C'est très cool. C'est un mix entre Ninja Gaiden et Dark Souls.
C'est ça.
C'est sûr que j'aime ça.
Avec les hôtels et tout. Là.
C'est fait par Team Ninja. Écoutez, ils peuvent pas se tromper à date. Ce qui est cool, c'est que le démo est présentement disponible sur la PS4.
On a parlé hier,
Ouais, vous la téléchargez, vous avez jusqu'au 5 mai pour jouer. Ce qui est cool, c'est que si vous jouez puis vous terminez le démo, ça vous donne du contenu téléchargeable qui est Mark of the Conqueror qui va être disponible quand vous allez acheter le jeu à sa sortie. C'est ça, je trouve ça cool. Tu te dis de faire des promotions, donner du bonus.
Yeah.
Télécharge le démo, joue au démo. Si tu le termines, ça va être sauvegardé sur ta console. Puis quand tu vas acheter le jeu, le contenu va se transférer. Pourquoi pas? C'est gratuit, c'est le fun. Ça fait un buzz pour le jeu. Je trouve que c'est une super bonne idée.
Quand la version, parce que c'est une version alpha, ils te le disent au début, quand c'est le fun, puis c'est bon, c'est intéressant. Mais il y a une étude qui est sortie récemment qui disait que la plupart des joueurs tu risques d'en perdre des joueurs. Ils se disent « Ah ouais, mais là, ils oublient que c'est une version bêta. » Puis ils sont échaudés.
Ils oublient
ou
ils ne comprennent pas.
Ils
ça,
comprennent
c'est un couteau,
pas.
Comme tu dis, à deux tranchants.
Exact.
Je me souviens d'avoir joué il y a un mois environ au démo de Final Fantasy XV.
Ouais. Là, qu'est-ce que tu t'es dit? T'as-tu dit c'est de la
chenoute? J'ai joué puis j'ai fait
ouais.
« What? » Tu sais, j'étais comme pas prêt à ça. C'est weird, hein? Mais il a fallu que je joue deux fois pour les combats, de me dire « C'est pas Final Fantasy. » Mais je vais lui laisser sa chance. Mais mon buzz, qui était peut-être à 90% pour Final Fantasy, est droppé à 60%.
Voilà.
Parce que pour moi, ça, c'est pas Final Fantasy, mais je comprends pour que la licence, elle évolue.
C'est mieux que ça, tu dépenses, tu tombes 40% que 80$ dans tes portefeuilles.
Oui, c'est vrai.
Oui, mais est-ce que c'est une version finale ou c'est une démo?
Ben, c'est une démo technique.
Okay.
Je te dis, celui-là, c'est vraiment une démo technique parce que tu payes sur des plateformes.
Mais toi, tu le sais,
le soleil,
ça.
Tu peux mettre des nuages, la pluie, le soir, tu sais, pour voir vraiment toute la dynamique. Mais pour moi, ça, c'est pas le feeling de Final Fantasy que j'avais.
Tu viens de le dire, c'est une démo technique. C'est ça. Mais sauf que le danger avec ça, c'est que ça vient d'entacher ta
vision.
Comme
on disait, c'est un coup de poing à deux tranchants.
En même temps, dans le temps, il y avait des démos que les gens téléchargeaient sur leur 56K pendant 8 heures de temps.
Et là, j'achetais le PC Gamer qui venait avec un CD. Avec le CD, avec
mon
CD au démo.
C'est le maudit CD.
Comment ça, il faisait ça?
Parce qu'il pliait le magazine. C'est marqué sur le magazine Do not Bend. Ouais. Sauf que comme lui, il fait ça à longueur de journée, Claude, il mettait ça dans ma boîte aux lettres.
Il y en avait dans les boîtes de céréales qui scrapaient les machines. Tu te souviens-tu de ça?
Des boîtes de...
Oui, il y avait des CD qui venaient avec.
Mettais ça dans ta machine, finalement, tu te rendais compte que ça ne marchait pas.
Tu mettais ton CD dans ton bol de céréales, tu mettais des billets.
Comment ça ne lit pas?
Donc, des mots à essayer, ça vous tente. Jusqu'au 5 mai, on a parlé hier. D'autre part, les gagnants de ce soir, mesdames, messieurs, gracieuseté de PQM.
Ben Mercier.
Non.
Ian Richards.
Non. Celui qui a... Pour le jeu Back to the Future Trilogy.
Oh, de Telltales.
Oui, exactement. C'est Titan 83. Félicitations. Gracieux, c'est des PQM. Two Worlds 2, c'est Kevin M. Blanchette. Félicitations.
Ça, c'est fun, ça. Il est bon.
Nether, c'est Vorfalak qui a gagné ça. C'est juste les Nick. Nicolas va rentrer en contact avec vous dans les prochaines minutes. Il y a Walking Dead. Il y a Steph qui a gagné ce jeu-là. C'est Steph XX3.
Ouais, c'est moi, ça.
Ben oui, c'est ça. Et Batman Arkham City a été gagné par Land Taman. Félicitations. Donc, notre ami Nicolas va rentrer en contact avec vous au cours des prochaines heures ou au cours des prochains jours. N'ayez crainte, ça ne sera pas dans l'instant parce qu'il y a deux petits bébés maison.
Hey Steph, XX3, c'est une de mes nouvelles followers. Fait qu'on peut se faire un deal, hein.
C'est vrai?
Passe-moi le jeu.
Ah, c'est bon, ça.
Ouais. Merci beaucoup. Et continue d'envoyer des photos. On veut mettre ça en fin de générique. J'en ai beaucoup. On ne les repassera pas. C'est les mêmes qu'hier. Je n'ai pas eu le temps de les faire aujourd'hui. J'ai fini tard. Mais au cours des prochaines émissions, vous allez vous voir la binette. Oui, monsieur Yann.
Je vais juste répondre à une question rapide parce que vous en avez parlé. Mais oui, le prochain Zelda va sortir simultanément sur la Wii U puis la nouvelle console de Nintendo.
Il y a quelqu'un qui pose la question. NX.
La NX.
Très, très cool. Puis je pense qu'on va se payer une petite ride, nous autres, de Battlefield. On revient aux sources. En ligne. Pour
je pense pas que je vais vous suivre là-dedans, par exemple.
30$ le jeu.
Je sais pas.
Non. En tout cas, on va sûrement s'amuser un petit peu là-dessus. Division, il y a un gars qui travaille pour une compagnie qui fait justement l'analyse de serveurs de jeux, de la kit, puis il dit que le jeu de Division, selon lui, PC, est brisé.
Brisé
dans le sens où il y a trop de triche qui se fait sur le côté client. Les gens jouent dans les registres, tout ça, puis ils changent les trucs. Il y a des exemples de ça sur Internet, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'étais découragé. Je regarde
PC
ça.
Master Race, man.
Ah, oui, ben, là, tu vois, le gars, il est content. Dans son sac, il montre il y a à peu près 6 ou 7 items jaunes incroyables qu'il a pris du temps à trouver.
Ouais.
Alors, lui et son petit collègue se placent, calent l'hélicoptère. Et loin, tu vois des points qui sont loin sur la carte. Le gars, il dit sur YouTube, regardez bien, ils vont se télétransporter.
Ils ont qu'ils volaient?
Écoute bien, c'est pas ça. C'est qu'ils sont loin, dans un autre secteur de la carte. Ils se télétransportent à la zone d'atterrissage, lâche un truc, paralyse tout le monde et pique le stock. Et tu regardes ces gars-là, puis ils sont contents, ils ont du fun. T'sais. Puis là, après ça, il y en a un qui demande « Pourquoi tu fais ça? » Il dit « Parce que le jeu est plate. » Mais s'il est plate, arrête de jouer.
Il a répondu ça, mais c'est pour répondre de quoi? C'est répondre quelque chose pour répondre quelque chose.
Arrête de jouer, va-t'en chez vous. Va faire un tour au parc. Apprends à frencher les filles. Ça aussi, c'est le fun. Excusez-moi. Donc, non, mais tu vois, ça me fâche. Parce que les créateurs de jeux ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent là-dedans. Et puis, selon ce gars-là, si on voulait changer justement cette fonction-là dans le jeu, il faudrait recommencer le code au complet. Ce que Ubisoft ne fera pas,
les ordinateurs, disons, on le sait, là, c'est ouvert. Là, tout le monde peut trafiquer là-dedans. Fait que c'est normal que ce genre de choses-là arrive.
En tout cas.
On est dépassé.
Oui, on est dépassé pas mal à part ça. 9h17, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là, Ian Richards. Merci beaucoup, monsieur. Merci encore une fois de votre présence.
Tu parles de petit
blog, Denis? Oui, c'est vrai.
Parce qu'il reste 2 jours là, pour ma campagne Indiegogo.
Oui, j'avais oublié. Excuse-moi, j'avais oublié.
Non, non, mais c'est bien correct. Je suis rendu à 17
665. Tu as pas gagné 18, tu le sais.
Ben, je sais pas. Là, on demandait 16 000 pour la création de notre studio pour les mystérieux. Si vous voulez nous encourager, si vous suivez un peu le podcast, vous avez encore 2 jours. Ben merci à tout le monde qui a donné parce qu'il y a un gros appui de la part de Denis et de la gang ici sur le chat. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup.
C'est bien le fun. Puis ça vous tente de lire davantage sur ce que je viens de vous parler de justement de Division. C'est Gaffer on Games. Never trust the client. Il vous explique comment. Ah. Et c'est il parle des 10 millions de DPS glitch puis toutes les patentes qui sont possibles dans ce jeu qui, selon lui, est brisé. Un long article très intéressant qui doit faire vibrer les gens chez Ubi, mais je pense qu'ils sont au courant aussi. Malheureusement, c'est plate. On devrait avoir le droit de poursuivre en tant que compagnie les individus qui scrapent la propriété intellectuelle.
J'ai l'impression que c'est une question de précédent.
C'est délicat.
Mais écoute, quelqu'un qui vend un logiciel qui permet de hacker, de rentrer dans ton truc, de scraper l'économie du jeu, de scraper l'essence de ta création, moi, je trouve ça indécent, mais regarde. Les ticus, c'est des ticus. Nous autres, on faisait un nouveau coup dans la ruelle, puis eux autres, ils font sur le web.
Il suffit que quelqu'un le fasse une fois, qu'une compagnie poursuive éventuellement un utilisateur, un joueur. Ça ouvre la porte, ça se peut que ça suit après.
Ouais. J'ai hâte de voir s'ils vont faire de quoi. J'en doute. On verra un moment donné, ils vont se tanner, puis ils vont se faire avoir. Mesdames, messieurs, voilà, c'est sur ces sages paroles que je vous dis merci. Merci aux gens de RDS.ca. Lundi, je commencerai à mettre du matériel exclusif sur RDS.ca. Vous irez faire un tour si le cœur vous en dit. Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré, encore une fois, au financement de Radio Talbot. Financement participatif, c'est bien, bien cool. Vos noms défilent, il y en a beaucoup. Merci à Play with Tom, qui est redevenu membre pour un 16e mois consécutif. Également à Blizz Tick, qui, lui, est là pour un 15e mois consécutif. Et tous ceux qui ont donné... Donc, qui circule dans la petite bande en bas. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Mon nom est Denis Talbot, passez une belle soirée. On va monter le piton pour bien entendre la publicité parce que j'aurai des billets la semaine prochaine à vous donner, 12 paires de billets donc pour les deux semaines qui suivent pour aller voir Humour aveugle. Salut tout le monde, bonne soirée.
Radio Talbot est rendu possible grâce à la participation du gala Humour aveugle 27. Une soirée de rire garantie au Théâtre Saint-Denis 1 le 14 mai à compter de 20h. Billets en vente chez Ticket Pro. Plus de détails, humouraveugle.ca. Une soirée au profit de la Fondation des aveugles du Québec.
Cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services? Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. Radio-Talbot@gmail.com